Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu ni maître, la voix de la Fédération anarchiste. Ce soir, une émission spéciale, spéciale crise, puisqu'on est en pleine crise.
Il paraît.
Une émission ouverte aux auditeurs. Donc vous pourrez appeler pendant les pauses musicales.
On vous préviendra.
Au 01 43 71 89 40, un numéro de téléphone que vous commencez à connaître. Et une émission animée ce soir.
Alors par la pompe du Carmel, oui, bah, je vais faire le tour de table puisque nous avons, nous sommes surtout parrainés par Lulu, hein, c'est notre Jacques Chancel à nous, donc il va surveiller qu'on ne dise pas de bêtises.
Oh, c'est méchant, c'est notre.
Non, mais parce qu'on est des journalistes ce soir, hein, donc prof qui sera notre Jean-Michel Apathy, tu as toujours ton accent.
Oui, je pense que ça va marcher ce soir.
Ça va être très très méchant.
Tu dis que Lulu serait notre Maurice Druon.
On a des références. Alors moi je m'inquiète.
Alors, nous aurons la neutralité et l'objectivité même, puisque la personne de Frère Oxyde, ce sera notre Alain Benoît à nous.
Donc je vous
signale que téléphone vous avez intérêt à être plutôt de bonne patte.
Où va se loucher le fantasme.
Le référent journalistique oblige, notre Alain Duhamel, ce sera le Marie John. Donc avec la petite mèche rebelle. Et bien sûr, je serai vindicatif comme un Jean-Pierre Elkabbach face à Nicolas Sarkozy, ça va de soi. Voilà. Donc c'était votre tour. Et nous recevons, puisque c'est une émission spéciale, nous recevons donc Pierre Concialdi de Cinebdo, qui est économiste, je crois, c'est ça?
Oui, on peut dire ça.
Ouais, on peut dire ça. On va s'arrêter. On va pas faire plus, à moins que tu veuilles approfondir.
Non, on pourrait dire que vous travaillez à l'IRES.
Oui, mon boulot, c'est effectivement dans l'institut de recherche. À part ça, je tiens la chronique économique à Cinebdo, puis je suis aussi militant associatif dans diverses associations, justement.
Et on peut vous retrouver sur votre blog que je cite, http://www.sidrolin.com.
Oui, tout à fait.
Qui n'est pas très à jour, vous m'avez dit.
Non, mais ça va venir, il va se réveiller, mais c'est la période d'hibernation qui a mis beaucoup de temps à se terminer, et là, avec l'été qui approche, je pense qu'il va se réveiller.
D'accord. Et alors, aussi, donc, Serge Halimi, du Monde Diplomatique, nous l'avons déjà reçu il y a 2 ans, voilà, donc bonsoir Serge Halimi aussi, vous pouvez parler dans le micro.
Oui,
écoutez,
bonsoir.
Non, mais qu'on prouve que vous êtes là,
parce qu'on a Alain Duhamel,
oui,
on a le vrai Serge Halimi.
Tu ferais peut-être ton Patrick par collabore, interviewant Fidel Gastro.
Il a été viré, donc en ce moment, c'est un précaire, hein, c'est un chômeur, n'est-ce pas? Puisque le pauvre garçon, il s'est fait licencier.
Pas du tout, il est partout.
Oui, on le voit partout, mais de téléphone seulement.
Je crois que son émission a quand même été arrêtée.
Oui, c'est pas le sujet de ce soir.
Non, c'est vrai, parce que c'est même ce qui lui a valu son succès médiatique, c'est qu'il avait le don d'ubiquité.
Oui, c'est vrai, oui.
Pour interviewer. Voir un peu de schizophrénie.
Il est très fort pour ça.
Donc,
on attaque le sujet directement.
On peut resituer Monsieur Halimi aussi, à travers ses livres qui traitent principalement de la critique des médias.
Oui, on a eu le droit, par exemple, les nouveaux chiens de garde.
Les nouveaux chiens de garde.
Si,
voilà, ouais. Oui.
Autre chose. Sinon, on peut parler aussi du livre de Pierre Concialdi. Là, je me suis un petit peu attaqué à ça. Donc, c'est Non à la précarité. Donc, c'est assez précis. Il y a du chiffre. Enfin, surtout, ça relativise un petit peu la façon dont les sondages, comment les institutions arrivent à jauger la population, puisqu'on peut faire dire un peu tout et n'importe quoi à des chiffres et à des difficultés.
Alors, ça, c'est plutôt un autre bouquin qui vient de sortir, qui est un ouvrage collectif.
On le sent déjà dans celui-là, quand même. Hein, c'est un peu...
Là, c'est plutôt pour décortiquer un petit peu les différentes dimensions de la précarité, et puis faire un peu un état des lieux, puis poser des questions, comment arrêter, quoi. Parce que, voilà, c'est surtout ça qui est intéressant. Alors que ce dont tu parles, c'était plutôt en deux mots. Hein, ça s'appelle Le Grand Trucage. Bon, ça... un titre d'éditeur, comme on dit, donc c'est pas forcément très très bien, par un collectif de statisticiens qui s'appelle Loren Data, et qui effectivement dans ce petit bouquin on passe en revue différentes questions où on décortique effectivement les différentes méthodes, disons, qu'utilisent les pouvoirs, les gouvernements politiques pour j'allais dire torturer leurs chiffres et surtout leur faire dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire.
D'accord.
Ouais, et puis sans rentrer dans le téléachat habituel de Radio Libertaire, on pourrait dire pour Serge Halimi qu'il a en plus de ça écrit Le Grand Bond en arrière, Quand la gauche essayait, et L'opinion, ça se travaille. Et dernièrement, je crois, la préface du livre de Thomas Frank, Quand les pauvres votent à droite. Oui. Voilà, une critique de la société américaine.
Bien, eh bien, je voulais demander à Pierre Conchaldi, puisqu'on va s'attaquer à la crise, à moins que tu aies encore autre chose à rajouter.
Non, il semble qu'on peut parler de la crise maintenant.
Et une petite explication de texte, parce qu'on entend beaucoup de mots comme déflation, inflation, je ne sais pas, il y en a tellement, on s'y perd. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce qu'on nous envoie tous ces mots au visage et aux oreilles. Et moi, des fois, je ne comprends pas ce qu'ils veulent me dire, ces gens-là, à la télévision, à la radio.
Bah, on va essayer. Ouais. Donc, inflation, déflation. Bon, inflation, on connaît peut-être un peu plus, même si on n'est plus dans des périodes d'inflation forte. C'est assez simple, hein, c'est une hausse générale. Générale, ça veut dire que ça concerne beaucoup de produits ou de services. Et durable, donc ça dure un certain temps. Donc pas uniquement un mois ou deux mois, bon, il y a des conventions, mais des prix, hein, au général et durable des prix. C'est ce qu'on a connu notamment dans les années 70, et c'est ce à quoi le gouvernement des années 80 s'est attaqué pour justement réduire l'inflation. Déflation, alors il ne faut pas confondre justement avec désinflation, hein, parce que dans les années 80 on partait d'un niveau d'inflation élevé, de l'ordre de 12-13%. Bon, il y a eu une période de désinflation, c'est-à-dire que le niveau de l'inflation, le niveau de la hausse des prix, si je puis dire, a baissé. On est passé de 12 à des rythmes aujourd'hui, bon, qui peut être variable, mais de l'ordre de 2, 3, 1, ça dépend un peu de la conjoncture et d'autres choses. Mais c'est encore de l'inflation, c'est-à-dire que les prix continuent à augmenter. Hein, d'ailleurs, il y a eu tout un débat sur le pouvoir d'achat après le passage à l'euro, et effectivement, on a vu une accélération de l'inflation, légère, mais quand même assez sensible, on pourra en reparler. La déflation, bah, c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire que c'est une augmentation négative, donc c'est pas beau, donc c'est une baisse générale et durable aussi des prix. Et ça peut se produire. Bon, il y a des, on a plus, c'est plus facile d'avoir des repères un peu concrets quand ce qui se relie à la crise, par exemple, le marché de l'immobilier, qui est assez typique, c'est un marché très, très, très spécifique. Hein, donc, on peut pas parler de déflation sur le marché immobilier, mais on sait très bien qu'il y a eu une bulle immobilière. Voilà, bon, aux États-Unis certainement, en France aussi. Voilà, peut-être pas de même nature, peut-être pas de même ampleur, mais certainement. Enfin, il y a à l'évidence, il y a eu une hausse des prix très très forte, trop forte par rapport à un certain nombre de réalités économiques qui s'est produit, et il est probable, même si on n'a pas beaucoup d'indicateurs, qu'on va avoir une baisse des prix. Donc si on avait, alors en elle-même cette baisse des prix elle ne fait pas la déflation, mais si on l'observait sur d'autres marchés, hein, encore une fois, des marchés de consommation courante, etc. Et si ça durait un certain temps, donc une année par exemple, ou deux, là on rentrerait dans une période de déflation. Voilà.
D'accord. Et ensuite, un autre terme, si je vous avais envoyé...
Croissance et décroissance.
Croissance-décroissance. Ouais.
Bon, alors, croissance, c'est un peu plus simple. On va commencer par là, même si c'est pas... croissance, habituellement, les économistes, ils aiment bien mesurer des choses avec des chiffres. Et donc, spontanément, on aime bien que les chiffres augmentent. Et donc, l'indicateur fétiche un petit peu de la croissance, c'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut. C'est-à-dire la somme de tout ce qu'on produit dans une société, dans une nation, durant une période donnée. En général, on mesure ça sur une année. Voilà. Donc, quand ces productions ajoutées, ces valeurs ajoutées, comme on dit, donc ce PIB, dans le jargon des économistes, augmente, on parle d'une croissance qui peut être faible, forte. Aujourd'hui, sur les 20-30 dernières années, on était sur des rythmes de croissance annuelle, en moyenne, hein, des tendances, on va dire de 2 à 2,5%. C'était beaucoup plus fort dans la fameuse période des 30 glorieuses, où on était plutôt sur des 5 à 6%. Voilà, donc la croissance, elle est mesurée, pour l'instant, à travers cet indicateur que je qualifie un peu de fétiche parce qu'il mesure mal les choses. En tout cas, il ne prend pas en compte un certain nombre de choses, et c'est la principale critique qu'on lui fait. Par exemple, il ne mesure pas le travail non marchand. Je prends deux exemples, le travail domestique mm-hmm. ou le travail bénévole. Tout ça, ce n'est pas pris en compte dans le PIB. Autre critique qu'on fait aussi à cet indicateur, il prend en compte, en revanche, des dégâts sociaux, des dégâts écologiques. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qu'on fait pour lutter contre la pollution, hein, ce qui n'est jamais qu'une réparation, finalement, d'une nuisance qui est venue peut-être d'une croissance un peu trop forte, on pourrait y revenir, c'est pris en compte dans le PIB. Donc ça accroît la principale critique qu'on peut faire au PIB, c'est son usage. Comme beaucoup d'indicateurs statistiques, en lui-même, le PIB n'est pas plus mauvais qu'un autre indicateur, mais si on lui fait dire quelque chose qu'il ne veut pas dire, ça devient problématique. Mmh. Et si on assimile PIB et grosso modo pour aller vite bonheur ou bien-être,
c'est le problème actuel.
C'est problématique.
C'est que c'est montré comme un flambeau. Quand je dis on, c'est pas nous, mais disons que la Chine est adulée actuellement parce que
la Chine a été sur des taux de croissance à deux chiffres, à 10%, avec beaucoup de bémols parce que justement les Chinois sont peut-être un peu plus mesurent des choses un peu plus que nous. Par exemple, dans les 10% de croissance chinoise, on estime qu'il y a 2 à 3% qui sont en fait des luttes contre des nuisances, la pollution, des dégâts écologiques. Donc il faut enlever allègrement 2 à 3 points de PIB pour avoir une idée d'une mesure du bien-être. Et il y a une autre façon il y a des chercheurs américains qui ont fait un travail très intéressant sur les États-Unis et sur le Canada. Ils ont mis en comparaison le PIB, donc la croissance, sur très longue période, depuis le début des années 60, et puis un indicateur qu'ils ont construit qu'ils appellent l'indice de santé sociale. L'indice de santé sociale, ça mélange, en quelque sorte, ça agrège des indicateurs sur la mortalité, l'espérance de vie, la pauvreté, le niveau d'éducation, etc. Donc des indicateurs qui sont censés mesurer, justement, la santé sociale des populations. Et ce qui est intéressant, c'est que, dans le cas des États-Unis, par exemple, on voit que la croissance de ces deux indicateurs, le PIB d'un côté, l'indice de santé sociale, était parallèle à peu près jusqu'au début des années 70, et ensuite il y a un très net décrochage. C'est-à-dire que la croissance, au sens habituel du terme, elle continue à augmenter, en tendance, évidemment, au-delà des aléas conjoncturels, alors que l'indice de santé sociale, lui, il stagne, voire il baisse dans certaines périodes. Donc voilà, c'est une façon de dire. D'illustrer le fait que à travers cet indicateur de croissance qu'est le PIB, on n'a pas nécessairement, et de moins en moins aujourd'hui, certainement une mesure du bien-être et de la santé sociale.
Et la décroissance.
Alors la décroissance...
C'était un sujet litigieux, d'après ce que j'ai compris.
C'est-à-dire que c'est un terme qui recouvre beaucoup de choses et surtout des définitions qui peuvent être très variables suivant les personnes qui l'emploient. Donc moi, je veux pas ici faire un balayer toutes les définitions qu'on peut donner. L'idée, c'est un peu la même que celle que la critique qui est faite à la croissance, c'est que dans le modèle, même si c'est pas un bon mot modèle, disons dans le mode de vie, le mode de croissance qu'on a aujourd'hui, qu'on a eu depuis 50, 60 ans, depuis la révolution industrielle, pour dire les choses plus précisément, c'est un mode de vie qui est très consommateur de ressources naturelles. Et on sait que ces ressources naturelles, en tout cas pas mal d'entre elles sont limitées, finies. Donc l'idée de la croissance est assez simple, c'est on peut pas continuer comme ça éternellement. Il y a un indicateur qui donne bien la mesure de cette limite, c'est un indicateur qui est assez intéressant, c'est ce qui s'appelle l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, je vais essayer de le résumer simplement, c'est traduit en termes d'hectares, pour avoir une mesure commune, le volume des ressources naturelles consommées une année donnée sur la planète. Compte tenu de tout ce qu'on produit, de tout ce qu'on détruit aussi, etc. Donc il y a des gens qui ont fait ce calcul, c'est un concept qui est né assez récemment, dans le milieu des années 90, mais qui a donné lieu déjà à pas mal de travaux. Et il y a deux éléments intéressants, deux constats intéressants qu'on peut faire à partir de cet indicateur. C'est que depuis le début des années 80, donc depuis une trentaine d'années pour grosso modo, on consomme sur la planète plus de ressources qu'on peut en consommer en une année. Traduit en termes de surface planétaire, on consomme grosso modo aujourd'hui 1,2 planète. C'est-à-dire qu'il faudrait 20% de notre planète en plus pour pouvoir durablement En tout cas, dans la durée.
Et encore, si on reste au niveau des Occidentaux, j'imagine.
Globalement au niveau de la planète.
Avec même les
en mélangeant les Chinois, les Indiens, les Américains, etc. Mais c'est l'autre constat, où je voulais venir justement, c'est que donc c'est pas soutenable déjà globalement, et c'est pas soutenable non plus parce que justement cette empreinte écologique, elle est beaucoup plus forte aux États-Unis, dans les pays européens. Si tous les habitants de la planète avaient le même mode de vie que les Américains, il faudrait 6 planètes. Si on devait avoir le même mode de vie que tous les Européens, il faudrait 3 planètes. Donc voilà, l'idée de la croissance, c'est de dire ce mode de développement, si on peut appeler ça du développement, ce mode de vie, il est insoutenable, et donc il faut aller vers la décroissance. Voilà.
C'était ce que j'allais rajouter.
Juste paraître provocant, mais enfin, y a tout un débat sur.
Mais si.
Je vais l'être.
Si c'est possible, bien sûr.
Moi, j'aime beaucoup. Enfin, il y a un certain nombre de gens qui parlent de la décroissance que j'aime beaucoup. Enfin, je pense qu'ils sont sensibles à un certain nombre de. Enfin, ils posent des vraies questions. Enfin, ce que je viens de dire, à mon avis, c'est un constat qui est partagé par personne. La question, à mon avis, essentielle, c'est comment on fait pour s'arrêter, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une sensibilité écologique. Bon, qui s'est exprimé notamment aux dernières élections européennes. Mais bon, le réchauffement climatique, la pollution, toutes les nuisances produites par la révolution industrielle, ce ne sont pas des catastrophes naturelles. C'est le produit des activités humaines. Donc la vraie question, ce n'est pas de dire que c'est insoutenable, tout le monde est d'accord. C'est qu'est-ce qu'on fait, comment on construit les processus, comment on s'organise, comment les sociétés et les individus s'organisent pour peser sur les choix et faire en sorte que on n'aille pas dans le mur. Parce que si on fait pas, si on fait rien, on va aller dans le mur.
Oui, on y va. Là. Pour l'instant, on y va. Juste pour rebondir, enfin. Là, on est dans le cas où on se rend compte du danger de la situation, enfin je pense qu'on s'en rend compte, et qu'il y a une volonté globale, on va dire, de l'humanité à vouloir cesser ce gaspillage, mais ça semble être mal parti, puisque...
Je suis pas sûr qu'on puisse dire ça.
On va parler de l'idéologie libérale ou capitaliste, qui est loin d'être morte. Consommatrice, consumériste.
Moi je pense que le danger de la crise financière actuelle, il est à travers tout ce qu'on lit aujourd'hui, c'est-à-dire les licences, on va peut-être en parler aussi, mais bon, les licenciements boursiers, le chômage, la précarité, etc. Et puis, effectivement, les dangers qui subsistent dans la sphère financière elle-même, parce qu'on a grosso modo colmaté quelques petites choses, on a mis quelques rustines, mais enfin, on n'a pas changé fondamentalement la logique. Mais le grand danger, c'est justement que cette crise financière, en attisant les problèmes réels, de chômage, de précarité, de pouvoir d'achat, etc., masque deux autres crises, qui sont la crise sociale, qui est en partie à la racine de la crise financière actuelle, et la crise écologique dont on vient de parler. Et donc là, finalement, enfin bon, je sais pas, Serge Alimi aura peut-être un point de vue par rapport à ce qu'on peut lire dans les médias, mais moi j'ai l'impression que si la machine repartait, j'allais dire comme en 40, tout le monde serait content, entre guillemets, c'est-à-dire dans l'opinion publique, les décideurs politiques font passer cette idée que on a fait un plan de relance, etc.
On attend que la crise passe,
voilà,
pour reprendre de plus belle.
Et moi je pense que c'est un des dangers de cette crise, c'est de faire passer au second plan ces deux autres crises qui sont tout aussi urgentes, sinon plus urgentes que la crise financière actuelle.
Ce qu'il y a d'important dans l'idéologie nationale, finalement, c'est qu'on puisse consommer 1,5 planète le plus rapidement possible, en fait, si je vous comprends bien.
Bah moins même que 1,5.
Oui, non, parce que effectivement, y a quand même des choses assez incompréhensibles. On nous parle par exemple d'une augmentation des ventes d'automobiles neuves à l'heure actuelle.
En France ?
Oui.
Oui, c'est possible.
On nous parle d'une relance de l'économie par la relance de la consommation, et pas seulement la droite. Et en fait, c'est ennuyeux, puisque en même temps, la plupart des gens aspirent à avoir suffisamment de billets de banque dans leur portefeuille pour pouvoir aller consommer, et donc consommer un peu plus de cette planète qui est déjà largement exploité, trop exploité.
À ceci près que Pierre Concialdi évoquait quand même la dimension sociale de la question. Donc quand on dit on et les gens, on évacue complètement les disparités de consommation entre ceux qui consomment beaucoup et ceux qui consomment pas beaucoup, entre le fait que certaines personnes ont besoin d'une voiture pour aller travailler et d'autres, comme moi, qui vivent à Paris et qui travaillent à Paris, peuvent très bien prendre les transports en commun. Et que dans ces conditions, je serais mal placé à donner en quelque sorte des leçons d'écologie à ceux qui vivent en banlieue ou très loin sans transport en commun et qui ont besoin de voitures et à qui je dirais, mais regardez ce que vous faites à l'empreinte, regardez quelle est votre empreinte écologique. Donc si on déconnecte un peu ces problèmes, si on déconnecte les problèmes écologiques et les problèmes sociaux, on a très vite un discours qui parfois peut avoir des intonations insupportables, qui est un discours de nantis, qui, eux, peuvent aller dans un magasin local bio, oui, à pied, alors que d'autres doivent prendre leur voiture en 4x4, alors que d'autres doivent prendre leur voiture et se garer dans l'aire de stationnement d'un supermarché qui lui-même va importer des productions qui viennent de l'autre bout du monde et qui seront en quelque sorte transportées par cargo en traversant la planète, et on leur dira mais regardez ce que vous faites alors que moi je me soucie d'aider le petit producteur local. C'est pour ça que ces problèmes, les problèmes écologiques et les problèmes sociaux, ne peuvent pas être disjoints. Ils doivent être abordés de concert, de front.
Je propose justement pour arriver à ces problèmes sociaux qu'on reparte à la source du problème actuel et la crise immobilière, comment elle est devenue une crise financière, enfin une crise bancaire entre les deux, une crise financière, une crise du capitalisme dans sa circulation d'argent, et qu'on explique ensuite comment le problème social, peut-être le problème écologique, arrive à naître ensuite. Puisque aujourd'hui, avec quelques chiffres, il suffit de regarder ou d'écouter un peu la radio, regarder la télévision et écouter la radio, ou lire les journaux, pour se rendre compte qu'il n'y a pas un jour sans licenciement. Enfin bref, on nous parle d'une crise qui semble tout à fait déconnectée de la réalité, et puis tout d'un coup, là on se prend quand même au bout d'un moment la réalité en pleine face, avec un nombre de licenciements quand même assez grand. Alors à la base, donc, on est dans une crise du logement aux États-Unis. Oui, c'est ça le déclencheur, le déclencheur qu'on nous présente.
Partagez-vous le gâteau. Hein,
je ne suis pas sûr qu'à la base, il y ait une crise du logement aux États-Unis. C'est vrai que ça s'est traduit de manière spectaculaire à travers le problème de l'endettement des foyers américains. Mais à la base, on est dans une crise qui s'explique, à mon sens, assez simplement par le fait que la répartition des revenus a été tellement inégale qu'une partie croissante de la population n'a pas pu, en quelque sorte, consommer davantage parce que ses revenus étaient insuffisants, qu'une partie réduite de la population dont les revenus étaient obèses n'a pas pu consommer davantage que 4 yachts par jour ou par semaine, et que donc, pour rétablir l'équilibre, on a forcé un certain nombre de ménages qui ne pouvaient pas acquérir un certain nombre de biens, dont l'immobilier, à s'endetter pour le faire. Et on a donc en quelque sorte remplacé l'endettement par le salaire. Dans le cas des États-Unis, le niveau d'endettement des ménages a atteint des proportions gigantesques. Je crois que chaque famille américaine a en moyenne 7 cartes de crédit. Et vous savez peut-être comment ça fonctionne là-bas. Vous êtes sollicité en permanence pour en prendre une nouvelle. On vous dit allez-y, vous avez droit à $2,000 ou à $5,000. Prenez-les tout de suite et puis vous rembourserez plus tard. Et les taux d'intérêt peuvent atteindre 15-20%, on vous encourage à faire tous vos achats avec des cartes de crédit en vous disant que si vous achetez avec telle carte de crédit, vous aurez des points qui vous permettra de gagner des miles ou de gagner ceci et de cela. Bon, et puis à un moment donné, on s'est aperçu que les ménages étaient trop endettés pour rembourser leurs dettes, et ça a posé un problème évidemment assez considérable à la fois aux banques et à tous les organismes de prêt qui les avaient encouragés à s'endetter.
Alors ça, il me semble que c'est notamment dû au taux de, enfin au taux de crédit, enfin au taux de, au taux directeur de, des banques américaines qui était excessivement bas pour justement soutenir la croissance.
Oui, alors je pense qu'il faut, enfin je partage tout à fait ce que vient de dire Serge Alimi, mais peut-être qu'il faut distinguer deux choses dans la crise actuelle. Ce qui a été effectivement le détonateur, et donc on parlait de la crise du logement, bon on va y revenir, la mécanique qui a conduit à l'effondrement des places boursières, et puis ce qui est fondamentalement à l'origine de cette crise.
Tout à fait. Hein,
qui est un peu davantage ce qu'évoquait, je pense, Serge Alimi. Donc la mécanique de la crise, on ne va pas faire ça dans le menu, mais effectivement, il y a eu d'abord une bulle immobilière aux États-Unis, c'est-à-dire que les prix de l'immobilier ont augmenté. Dans cette période-là, les banquiers ont été très agressifs pour vendre à des ménages pauvres, pour dire les choses, c'est-à-dire des ménages qui a priori n'avaient pas les moyens, des crédits immobiliers gagés sur des hypothèques. C'est pour ça qu'on les appelle les crédits hypothécaires. Donc c'est des crédits très risqués, donc c'est très juteux pour les banquiers. Quand ça marche, pas tant mieux, ils encaissent les bénéfices.
C'est ce qui
quand ça marche, oui.
C'est ce qui s'appelle les subprimes.
Les subprimes,
qui
c'est
sont,
ça. Crédit à risque, on traduit.
Voilà, mais en fait, qui sont pas les primes habituels de la société bancaire américaine, où les primes s'adressent à une population moyenne, enfin une classe moyenne un peu plus argentée, qui a moins de risques et qui va pouvoir payer. Alors que là, on fait du subprimes, on fait du revolving.
On a forcé à acheter des gens qui, a priori, n'avaient pas les moyens de faire.
Voilà.
Simplement, dans cette période où il y avait une croissance des prix de l'immobilier, il y avait deux solutions pour le banquier. Soit les gens payaient et ça marchait très bien, soit ils ne payaient pas et ça marchait aussi très bien parce que le banquier récupérait sa mise en vendant les maisons.
Voilà.
Donc ça fonctionne bien tant qu'il y a des nouveaux entrants qui achètent des maisons, hein, et tant que le marché de l'immobilier continue à grimper. Le problème, c'est que le marché de l'immobilier, comme beaucoup de marchés spéculatifs comme ça, il ne peut pas continuer à grimper souvent et donc ça s'est effondré. Il y a eu un retournement. Donc là, les banquiers ont voulu faire payer les gens qui n'avaient plus les moyens. Et donc, ça a fait chuter. Il y a eu une plus grande offre sur le marché immobilier. Et donc, tout s'est écroulé. Ce qu'il faut préciser pour bien comprendre le mécanisme de transmission sur les marchés financiers, c'est que ces dettes, depuis la dérégulation financière qui s'est mise en place depuis une trentaine d'années, elles sont maintenant transformées et vendues sur les marchés financiers. C'est ce qu'on appelle la titrisation, un terme barbare. Ça veut simplement dire qu'on fait des produits financiers où on vend un paquet de dettes subprime, un paquet d'obligations d'État américain, bon ça c'est du béton, et puis encore d'autres choses un peu entre les deux. Et puis on fait ces produits, je passe sur les noms, ça n'a pas d'intérêt, et on les met sur les marchés financiers. Les gens s'achètent et se vendent ce genre de produits. Et ils s'achètent et se revendent ce genre de produits. Ce qui fait qu'au bout du compte, et c'est un peu tout ce qu'on a entendu, on ne sait plus très bien où se retrouvent les mauvais produits, enfin les mauvaises dettes et les meilleures dettes. Et donc il y a un jeu de mistigerie en quelque sorte qui a fait que quand le marché s'est écroulé, bon, les banques avaient de ces produits-là, sauf que personne n'était capable de dire où se trouvaient les plus grosses mauvaises dettes. Donc une crise de confiance énorme, et ça a précipité la chute des marchés boursiers. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, je dirais, dans la crise, c'est ce qu'on nous a expliqué, donc pour ça je passe pas beaucoup de temps. Moi, je crois qu'il faut bien comprendre que s'il y a effectivement un moteur dans la crise, on peut dire des choses comme ça pour faire un peu l'image, qui sont les marchés financiers qui ont été ce moteur s'est étoffé grâce à la dérégulation financière qui permet de faire des tas de choses, hein, donc notamment ces fameux produits dérivés où on ne sait pas trop ce qu'on achète, on ne sait pas trop ce qu'on vend, mais comme il y a un effet de mimétisme, donc les financiers pensent que ça va toujours augmenter, et donc bon, tant que ça marche, tant que ça monte, tout le monde est content et on se pose pas de questions. Donc ça, c'est le moteur, je dirais, de la crise financière. Le moteur, ça fonctionne avec un carburant, et le carburant, et là on revient davantage à ce que disait Serge Alimi, c'est la répartition des revenus qui est devenue de plus en plus défavorable au travail. Hein, tout simplement. Il y a eu de plus en plus de profits. Sauf que comme les revenus des salariés, ça permet quand même de consommer, s'ils en ont moins, ça casse un peu le moteur de la croissance, comme on dit.
Et donc, s'ils s'endettent.
Sauf s'ils s'endettent. Alors, c'est le cas particulier des États-Unis parce que c'est effectivement un modèle qu'on nous vendait, mais qui n'était pas transposable parce que on disait, bah, les États-Unis, ça marche bien, regardez, ça fonctionne très bien. Bah oui, ils étaient tous endettés. Mmh. Et ce qui se passait au niveau global, c'est qu'en fait, les autres pays, le reste du monde, finalement, finançait l'endettement des Américains. Donc, c'est un modèle qui, quand on nous vendait comme quelque chose de merveilleux.
Il y a une phrase célèbre, il a essayé de nous vendre ce système-là, enfin, cette organisation-là, quelques mois avant que la crise.
Alors, ça, c'est plus spécifiquement sur les crédits hypothécaires. Mais le fait qu'une société fonctionne sur un endettement qui dépasse le niveau de revenu, c'est ce que disait Serge Halimi. Aujourd'hui, les ménages américains, en moyenne, ils dépensent plus qu'ils n'ont comme revenu chaque année. Donc, ça ne peut pas fonctionner, et surtout, ça ne peut pas fonctionner sans quelqu'un leur prête. Quoi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, ce modèle-là n'est absolument pas transposable. Il s'est un peu cassé la figure. Et donc, je reviens à ce que je disais sur le partage des revenus et le carburant. Dans la mesure où les profits ne pouvaient plus s'investir, ou n'avaient pas de raison de s'investir parce qu'il n'y avait pas de demande derrière, les profits ont grimpé, mais le taux d'investissement, lui, n'a pas augmenté. Et donc, on a vu croître ce qu'on appelle les profits non investis. Et ça a servi à quoi? Ça a servi à nourrir la spéculation financière. C'est ça qui a été le carburant. C'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que cet argent qui ne pouvait pas s'employer dans l'économie réelle, parce que faute de débouchés, il est allé nourrir la spéculation financière. Bon, ça peut pas non plus durer éternellement. Et donc là, on est à la conjonction de ces deux choses-là. Un système financier qui fabrique des produits dont personne ne sait exactement ce qu'ils sont et qui s'est nourri de cette croissance inégalitaire, fortement inégalitaire, qu'on observe, on pourrait prendre des chiffres, mais qu'on observe en France, mais qu'on observe aussi dans beaucoup d'autres pays, notamment en Europe, etc.
Peut-être deux points sur lesquels j'aimerais revenir. C'est d'abord l'aspect pratique. Dans le cas des États-Unis, il y a eu un moment où il est devenu plus facile d'acheter que de louer. On exigeait moins de garanties quand quelqu'un devait acheter un appartement ou une maison que quand il devait en louer une. Un journaliste récemment a raconté son expérience, je crois que c'était dans le Washington Post, et il expliquait qu'il arrivait à Washington avec des revenus de 6 ou 7 000 dollars, mais qu'il avait des pensions alimentaires à payer, donc il lui restait pas beaucoup moins, il lui restait environ 3 000 dollars, et il cherche à louer, et avec la somme dont il dispose, et ben il peut pas trouver un appartement suffisamment grand pour l'héberger lui et ses enfants. Et on lui dit, ben écoute, dans ce cas-là, achetez. Vous avez quelque chose de beaucoup plus grand. Et il dit, mais j'ai pas les moyens d'acheter. On lui dit, mais si, vous pouvez acheter. On n'exige aucune garantie. De toute façon, sur la base de vos revenus, c'est très bien. Et puis, si vous avez un problème, regardez, ça augmente de 15% par an. Vous n'aurez aucun mal à revendre votre appartement. Et évidemment, quand l'effondrement prévisible du prix de l'immobilier se produit, ses dettes sont supérieures à la valeur de son actif, parce que c'est ça qui se produit aux États-Unis. Il y a des gens qui se sont endettés pour un montant supérieur à la valeur de leur maison. Donc même quand ils vendent leur maison, même s'ils y renoncent, tout l'argent qu'ils ont investi pendant des années pour payer leurs intérêts est sacrifié, il n'y a pas assez. Ils se retrouvent donc à la rue et avec une dette due à toute une série d'organismes de prêt. Donc c'est comme ça que ça a fonctionné pratiquement. L'immobilier avait besoin de vendre des maisons. Il y a des villes fantômes maintenant qui sont fantômes, qui se sont créées en Floride où on disait, achetez, vous avez deux appartements, achetez-en un troisième, de toute façon vous le revendrez l'année prochaine avec 10% de plus, et les gens ont acheté, et puis on s'est aperçu que ça n'avait aucun intérêt d'être à 150 km de Miami, qu'il n'y avait rien, que c'était sinistre, etc. Et puis en plus, ces maisons n'avaient aucune valeur, quoi. C'était uniquement un produit spéculatif. Bon, maintenant, ça ne vaut plus rien. Ça, c'est la dimension pratique. Et puis, il y a aussi la dimension politique sur laquelle il faudrait peut-être dire un mot, la dimension historique. Dans l'histoire, il y a toujours eu des gens qui ont pensé qu'il était important pour stabiliser un régime, que ce soit le capitalisme ou un régime qui n'était pas capitaliste, quand c'était le régime tsariste, de créer une classe de petits propriétaires. Il fallait que les gens soient propriétaires de leur maison, propriétaires de leur voiture, mais surtout propriétaires de leur maison. Comme ça, ils défendraient le régime et ils n'auraient pas intérêt à une révolution. C'est la grande idée de Stolypine au moment de la première révolution russe. Il dit au tsar, voilà, il s'est passé quelque chose, il faut que les gens deviennent propriétaires. et on encourage une classe. Alors là, c'est pas des propriétaires d'immobilier, c'est les terres. On répartit les terres de telle manière qu'il y ait des petits paysans qui seront là pour se battre bec et ongles contre les rouges qui voudraient leur arracher leurs terres. Et cette idée-là, on l'a retrouvée après dans l'histoire. Ça a été Pompidou. Pompidou, ça a été aussi l'accession à la propriété individuelle. Il fallait que chacun ait sa maison, qu'il y ait une classe de petits propriétaires. C'était évidemment au lendemain de mai 68. Ça a été Thatcher. Ça a été Thatcher et la vente des logements sociaux qu'il fallait que les habitants rachètent. Comme ça, on se disait bon, bah, qu'ils les garderaient en meilleur état et puis qu'ils ne voteraient plus travaillistes. Parce qu'à l'époque, voter travailliste, c'était voter à gauche. Bon, les choses ont un peu changé.
Et puis après,
ça a été Bush. Bush l'a dit explicitement, il fallait créer une classe de propriétaires. Et les politiques qui ont été menées aux États-Unis dans les années 80 et 90, à la fois par Bush, mais aussi par un certain nombre de démocrates, parce que, comme Pierre Constialdi le rappelait tout à l'heure, il y a eu des lois de déréglementation bancaire qui ont permis ces facéties dont on vient de parler. Ces lois de déréglementation, elles ont été votées par Clinton. C'est Clinton et c'est Rubin qui sont revenus sur la loi Glass-Steagall qui distinguait entre les banques d'affaires et les banques de dépôt. Eh bien, là aussi, il y avait l'idée qu'il fallait créer une classe de petits propriétaires. Et en quelque sorte, cette crise des subprimes met ça en difficulté, met toute cette idéologie en difficulté. Parce que les gens qui sont propriétaires, ils s'aperçoivent que, pour eux, ça a été une catastrophe. Mmh. Un peu comme les gens qui achetaient des actions en bourse, vous vous souvenez, dans les années 80, où il y avait toutes les émissions de télévision, le journal du soir, où les gens avaient le Minitel pour savoir de combien le portefeuille avait augmenté, où il y avait Catherine Deneuve qui disait « Devenez actionnaire de Suez », etc. Et puis, boum, octobre 1987, le crack, les actions qui perdent 27%, et vous avez des gens qui viennent de rentrer en bourse, et qui pensaient que ça allait augmenter sans arrêt, et qui découvrent du jour au lendemain que c'est la catastrophe. Eh bien, il y a 1 million ou 2 millions de personnes qui quittent complètement la bourse, qui sont complètement dégoûtées par cette expérience. Et il est possible qu'à travers la crise des subprimes, il y ait donc la mise en cause de ce rêve qui, en quelque sorte, qu'on présente à des gens qui ne peuvent pas se le payer, de devenir propriétaire et, comme ils ne peuvent pas se le payer, naturellement, de s'endetter pour le devenir.
Ce que vous dites là me fait penser plus près de nous aux problèmes qu'on voit en Espagne d'une part, où l'accession à la propriété est quand même un peu différente de la France, mais aussi de la France où on a vu, je crois, l'année dernière, à une ou deux reprises, des reportages sur la loi dite d'Eurobien, qui permettait, avec des conditions fiscales attractives, jusqu'à 60%, je crois, qu'on pouvait dégrever de ses impôts sur la fortune après un achat immobilier. On permettait aux gens de devenir actionnaires, enfin propriétaires d'un autre appartement. Construit quelque part en Dordogne, je crois me souvenir des exemples, qui ne sert strictement à rien, puisque personne vient y habiter. Et en fait, on retrouve à peu près les mêmes choses. Donc, c'est pas seulement aux États-Unis. On a véritablement les mêmes fonctionnements aujourd'hui. Enfin, oui, aujourd'hui en France, hein, puisque cette histoire-là continue. Elle a moins d'impact parce qu'en général, c'est souvent des gens qui sont déjà propriétaires, mais qui ont une situation malgré tout qui devient un peu difficile à cause de l'endettement dans lequel ils se sont plongés.
Oui, et puis c'est des gens à qui on disait de toute façon, vous savez bien, vous n'aurez pas de retraite parce que c'est fini les retraites. C'est une vieillerie, ça va disparaître. Donc vous avez intérêt à acheter un appartement que vous pourrez louer et ça remplacera votre retraite. En quelque sorte, c'est ça la merveille du système, c'est qu'il utilise chacune des douleurs qu'il inflige comme un argument pour vendre un nouvel article de sa camelote.
Oui, c'est... On va passer une musique, voilà.
Oui, et puis une musique. Vous allez écouter les paroles, vous allez écouter cette chanson, parce que c'est.
Tu nous en as déjà fait la promo.
Ah oui. J'ai trouvé ça dans mes vieilleries. C'est une chanson de 1934.
Alors juste avant, on va rappeler que les
auditeurs peuvent appeler au 01 43 71 89 40. Donc pendant le morceau musical, mais le morceau musical c'est 2 minutes 39, donc va falloir faire vite.
Au besoin,
on en passera un deuxième, un petit bras. Brassens, par exemple.
1934, je chantais déjà.
Ouais, 1934, c'est juste après la crise, la première. Et je crois que, alors les auditeurs pourront me le dire si je me trompe, parce que ça, j'ai récupéré ça dans un coin, je vous dis pas comment. Je crois qu'il s'agit de Monsieur Alibert, une grande vedette de l'époque. Écoutez-moi ça.
Ça ne va pas, la crise par-ci, la crise par-là, on se plaint jour et nuit, on se lamente, on s'ennuie. La crise est la cause de tout, même Crésus est sans le sou, il gagne du 100%, mais se fait du mauvais sang. Il existe un moyen pourtant d'être toujours content, c'est de croire que tout est mieux, tout est délicieux, tout merveilleux, et de chanter à Dieu. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux, tra-la-la-la-la, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur. On dit autrefois, on était heureux comme des rois, la vie était pour rien, et l'on vivait si bien. Le puretin comme le rentier se baladait toujours à pied, l'été pour prendre le frais, dans le train se fait à peu frais. Maintenant les petits comme les gros ne roulent qu'en auto, dans les cercles, les casinos, leur coule à flot, rien n'est trop beau, car disons le trop haut. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux, tra-la-la-la-la, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur.
Ah, je vous avais prévenu, hein, c'était carrément un pied de nez à cette émission. Voilà, pardon. On a beaucoup de coups de fil. Oui. On fait un peu la synthèse de tout ça. On passera peut-être quelqu'un en direct à l'antenne.
On a déjà pris quelques questions.
On a pris quelques questions et on passera quelqu'un peut-être à l'antenne. Oui, oui, bien
si
sûr. Ça me gêne absolument pas. La technique le permet. Le morceau va te faire plaisir, vraisemblablement.
Y'a des petites fleurs, y'a des petites fleurs, y'a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Au fond de ma cour, je suis renommé. Au fond de ma cour, je suis renommé. Renommé pour avoir le cœur mal famé, le cœur mal famé. Au bois de Vincennes, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Quand il y a plus de vin dans mon tonneau, quand il y a plus de vin dans mon tonneau, dans mon tonneau, ils n'ont pas peur de boire mon eau, de boire mon eau. Au bois de Meudon, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Il m'accompagne à la mairie, il m'accompagne à la mairie. À la mairie, chaque fois que je me marie, que je me marie. Au bois de Saint-Cloud, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Chaque fois que je meurs fidèlement, chaque fois que je meurs fidèlement, fidèlement, ils suivent mon enterrement, mon enterrement. Des petites fleurs, oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur.
Comme vous vous en doutez, il y a beaucoup d'appels ce soir, donc on va faire la synthèse un peu de tout ça. On bah, amène les fiches. On amène les fiches, Guy Darbois.
Nos employés du téléphone sont partis fumer une cigarette.
Bah oui,
c'est la pause légale.
Ils font ce qu'ils veulent.
Syndical. Merci, d'accord. Voilà. Donc, bravo à Serge pour sa nomination à la direction du Monde Diplo. Je ne vois pas trop le rapport, mais faut-il passer par
c'est
le
gentil,
slam
quand même.
Il y en a qui veut bosser au Monde Diplo, là.
Oui, faut-il passer par le slam pour dissoudre le système capitalisme.
Slam, c'est le truc de Lordon, c'est ça. Ah, j'ai oublié l'acronyme, mais Serge Alimi doit s'en souvenir mieux que moi.
Slam. Non, c'est une proposition qui a été développée par Frédéric Lordon dans un article du Monde Diplomatique. Et dans son dernier livre, d'ailleurs, mais je pense qu'il vaut mieux lui poser la question à lui qu'à moi, s'il nous écoute. Et je pense que, d'ailleurs, l'objectif n'était pas de dissoudre le système capitaliste. Non. En tout cas, pas à ce stade.
D'accord.
L'idée, pour quand même dire un mot de ce que c'est, c'est de plafonner le taux de profit, grosso modo. C'est-à-dire, bon, il n'y a pas de raison que dans l'économie normale, les taux de profit s'envolent comme ça. Bon, c'est les fameux 15% imposés aux actionnaires qui ont créé des exigences de rentabilité qui n'ont pu se satisfaire que par la spéculation. Quoi. Donc voilà l'idée de slam, en très résumé, mais encore une fois, ça serait bien effectivement de poser la question à Frédéric Lordon, c'est de décréter ces taux de profit qui ne font pas sens d'un point de vue économique. Quoi.
D'accord. Ah bah, puisqu'on parle du slam, enfin de moi je voulais quand même parler de ça, c'est directement donc on va aux États-Unis, donc il y a un nouveau président, je crois que tout le monde est au courant à peu près. Enfin tu voulais quelque chose.
Non, j'avais une question.
Ah, t'as des questions.
J'avais une question de Jean-Luc qui donc nous disait pourquoi ne pas profiter de ce capitalisme blessé pour le pousser dans son trou, quelque chose en ce genre. Et donc lui il posait comme réflexion, est-ce qu'il est possible par exemple de retirer ses avoirs dans les banques? Est-ce qu'il est possible d'arrêter d'acheter dans les grandes marques de supermarchés? Et puis enfin, chose que j'ai trouvée intéressante, je mets bien naturellement comme question, c'est est-il possible d'inventer une monnaie qui serait déconnectée de la production? Voilà. Ça vous paraît bizarre?
Je crois que la monnaie est déjà déconnectée de la production à travers les systèmes bancaires. C'est la monnaie de crédit. Mais...
Bon, c'est une réponse.
Parce que les banques créent elles-mêmes leur argent, hein, bien suivi.
Oui. La spéculation, c'est justement de ne plus avoir de lien avec la réalité de production.
Bien évidemment.
Moi, je répondrais oui à toutes ces questions. Simplement, la vraie question, c'est pourquoi faire, je crois. On peut toujours individuellement aller retirer ses avoirs à la banque. On peut toujours arrêter d'acheter au supermarché. supermarché pour aller acheter dans une AMAP. Bon, on peut, on a cette liberté, si je puis dire, dans nos sociétés. Et on peut aussi concevoir des systèmes d'échange. Alors, c'est peut-être ça.
Oui, je pense
à quoi pense l'éditeur, comme le sel ou ailleurs. J'ai oublié les noms, mais.
C'est les systèmes des moyens d'échange.
Il y a même en Allemagne des systèmes de monnaies locales qui ne circulent que, qui ne sont valables, disons, et qui n'ont pas d'intérêt. Enfin, voilà. Donc, tout ça est possible, mais la vraie question, encore une fois, c'est comment ça, comment ces comportements, ces stratégies, on va dire, permettent de vraiment changer la donne à un niveau plus global. Parce que si c'est, la question, c'était pourquoi pas pousser le capitalisme dans ces... Oui. Est-ce que ça permet, moi, ma réponse rapide, c'est non. C'est pas comme ça qu'on va changer, qu'on va abattre le capitalisme si on veut aller par là. Donc je pense qu'il reste à construire. C'est bien là la difficulté des résistances, des formes d'organisation qui, justement... nous permet de profiter de cette période. Le principal intérêt de la période qu'on vit depuis un an, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui étaient absolument inaudibles. Et j'en sais quelque chose en tant qu'économiste, parce que pour être pas du bon côté de l'économie, il n'y a pas dans la pensée économique plutôt dominante, quand on racontait des choses qui aujourd'hui sont devenues presque banales, on passait pour un hurluberlu. Aujourd'hui, on peut les dire. On peut les dire, elles sont audibles, elles sont entendues. Je crois que l'opinion publique, à travers les manifs du début, en tout cas cette année, elle a exprimé quelque chose de cet ordre-là. Enfin, on peut dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire, il y en a un peu ras-le-bol de nous prendre pour des imbéciles. Et ça a été le cas pendant 30 ans. La vraie question, c'est comment on transforme l'essai de cette prise de conscience qui ne va pas durer éternellement.
Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que ça fait plusieurs décennies, on va dire une trentaine d'années depuis que le capitalisme se débride, donc Thatcher, Reagan, Mitterrand, les années 80, ça fait une trentaine d'années qu'il y a plein de gens qui tirent sur la sonnette d'alarme, qui ont déjà pronostiqué ce qui arrive aujourd'hui, qui ont toujours passé pour des rigolos, des archaïques, des gens complètement dépassés, qui ne comprenaient rien, qui étaient absolument à l'ouest. Bon, je remonte pas à Karl Marx, etc.
On en connaît quelques-uns autour de cette table.
Serge Halimi, notamment.
Non, je pense que, effectivement, toute cette pensée critique qui ne s'est pas plus trompée que d'autres, quand on voit dans la situation dans laquelle on se trouve, c'est un peu la merveille du système politique et du système médiatique, encore écarté pour que ce soit ceux-là même qui nous ont dit allez-y, déréglementez, endettez-vous, etc., qui soient maintenant présentés comme les médecins du capitalisme en crise. Et vous avez les mêmes Minc, les mêmes Attali, les mêmes machins, les mêmes Daniel Cohen.
Les mêmes merdes, disons-le.
Qui sont partout à vous dire on vous l'avait toujours dit.
C'est magnifique, ça, c'est grand. Ça sera la troisième partie, mais effectivement, on en reviendra sur ces gens qui font oh ben, mais à coup le pas, on s'est trompé, les amis. En fait, on vous l'avait quand même dit, mais vous l'aviez mal compris, certainement, qu'ils nous l'avaient mal expliqué aussi.
Ça manque de pédagogie, ça s'appelle.
Un petit manque de pédagogie, voilà. Et donc, alors, Lulu, tu as des questions?
Oui, il y a un auditeur qui bossait chez France Télécom et on lui avait proposé d'acheter des actions, donc il avait refusé bien sûr. Puis il disait que le canard, il y a quelques années, avait déjà mis en garde les gens contre ce système, les surprimes pour acheter des maisons et tout ça. Déjà, c'était dans les risques. Puis il y a Françoise aussi qui, bon, c'est dans l'avenir, qui dit que l'écologie, c'est la nouvelle morale du capital, c'est qu'ils vont investir beaucoup là-dedans, voilà. C'est leur nouveau truc. Et puis, à midi, elle a entendu sur Inter que Parizeau prévoyait qu'il n'y aura plus de retraite. Quoi. Voilà. Donc, c'est l'avenir radieux qu'on nous prépare.
Voilà, on avait justement parlé juste avant du MEDEF en général et du Parizeau en particulier, qui effectivement, enfin, la promesse de remplacer les retraites par des achats de maisons, puisqu'il n'y aura plus de retraite. Donc, enfin, là, ils veulent repousser, c'est ce que j'ai entendu, mais on pourra peut-être en parler tout à l'heure. François, tu frère Oxide, non, pour l'instant. Alors on passe à Obama, parce que moi je voulais savoir si c'était le Messie Obama, Serge Halimi. Est-ce que voilà. Obama est un gauchiste déguisé qui va effectivement réformer le capitalisme et voir carrément le substitut, enfin trouver un modèle de substitution à ce système-là, ou est-ce qu'il est contraint par la crise d'appliquer quelques recettes qui ont l'air socialistes?
Je crois que son objectif n'est pas du tout de mettre en cause le capitalisme, mais de le sauver.
Et c'est bien le problème, oui. On est d'accord. Donc.
Bon, mais en même temps, il faut voir que son élection est un phénomène majeur et à bien des égards exceptionnel, parce que si on voit l'histoire contemporaine américaine, depuis 30 ans, c'était presque toujours des présidents de droite qui étaient élus, qu'ils soient démocrates ou républicains. Soit ils étaient républicains et bon, c'était Reagan, c'était Bush. Il n'y avait pas de difficulté particulière à les identifier politiquement. Non. Soit ils étaient démocrates et c'était Carter et c'était Clinton, et ils se présentaient comme des démocrates qui avaient rompu avec l'orthodoxie démocrate de Roosevelt et de quelques-uns de ses successeurs, c'est-à-dire une orthodoxie qu'on peut qualifier, pour dire les choses un peu grossièrement, de social-démocrate. Les liens avec les syndicats, etc. Donc vous aviez des démocrates qui disaient « Bon, nous on arrive, mais on a tiré en quelque sorte les leçons. On a compris les leçons de Reagan, on a compris les leçons de Bush père, et on est des nouveaux démocrates. Un peu comme Blair et les nouveaux travaillistes au Royaume-Uni. Donc on fera grosso modo une politique de droite, mais on y mettra une espèce de vernis souriant, décontracté, avec du showbiz, etc. C'était un peu la politique de Clinton. Et il faut rappeler à quel point la politique de ces démocrates était une politique de droite. Dans le cas de Carter, ça a été les politiques monétaristes qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est lui qui nomme Paul Volcker à la tête de la Réserve fédérale. Il y a des taux d'intérêt de 21%. C'est lui aussi qui relance la guerre froide à partir de 1979. Et c'est lui qui commence les déréglementations avant même Reagan, la déréglementation des transports, etc. C'est Carter, c'est un démocrate. Dans le cas de Clinton, c'est encore plus facile de voir à quel point sa présidence a été épouvantable pour quelqu'un qui est attaché à un certain nombre d'idéaux progressistes, parce qu'avec lui, ça a été la généralisation de la surveillance, la multiplication des chefs d'inculpation qui ouvraient sur la peine de mort, la loi « Three strikes and you're out », qui voulait dire qu'après une double récidive, quel que soit le délit que vous ayez commis, vous pouviez et vous deviez être condamné à une peine de prison à perpétuité. C'était aussi les politiques d'agression unilatérale sans mandat de l'ONU, qui n'ont rien à envier à celle de Bush à propos de la guerre d'Irak, parce que ça a été le bombardement du Soudan, les bombardements de l'Irak, les bombardements de l'Afghanistan, et ça a été la guerre du Kosovo sans mandat de l'ONU.
L'invasion des îles Grenades,
ça c'est plus Reagan.
C'est reniement aussi pour la santé. Il s'était engagé à développer la santé.
Oui, mais disons que là, il n'a rien fait de pire, quoi. Il n'a rien fait du tout. Il avait pris un engagement qui n'a pas tenu. Mais les mesures que j'évoque, ce sont des mesures négatives. C'était en quelque sorte pousser le balancier américain encore plus à droite qu'il n'était du temps de Reagan et de Bush père. Et j'ai oublié quand même la loi qu'il a signée en 1996 d'abolition de l'aide fédérale aux pauvres. Qui était une loi qui avait été prise par Roosevelt du temps du New Deal, qui a été abolie pas par Reagan, pas par Bush père, mais par Clinton. Bon, donc on avait tout cet héritage, il faut l'avoir à l'esprit quand on pense à l'arrivée de Obama à la présidence, parce que Obama, lui, il ne fait pas campagne en disant je suis un nouveau démocrate et j'ai compris à quel point Reagan et Bush et machin ont fait le bien et je m'inspirerai de leur exemple. Lui, c'est un démocrate de gauche qui a pris position très tôt contre la guerre d'Irak, ce qui à l'époque était relativement courageux, parce que 80% des Américains y étaient favorables, et que au Congrès vous aviez plutôt intérêt à dire que Bush c'était Moïse si vous vouliez être réélu. Donc lui, il a pris position contre la guerre d'Irak, et il est évident que dans la galaxie démocrate, il représente l'aile, sinon la plus à gauche, en tout cas l'aile gauche du Parti démocrate. Il arrive, il fait campagne et il est élu, ce qui est un miracle. Dans la situation politique américaine, c'est ce qu'on peut trouver de plus à gauche. Bon, mais pourquoi ce miracle se produit-il ? Certes, parce qu'il fait une bonne campagne, et puis il y a tout le bavardage sur les réseaux sociaux, etc., tout ce baratin que vous pouvez lire dans Libération, mais il y a des choses plus sérieuses. Et les choses plus sérieuses, c'est d'une part que le bilan économique et financier du libéralisme de Reagan, de Bush, mais aussi de Clinton, est calamiteux, qu'il arrive au pouvoir alors que tout s'effondre. Donc il ne va pas dire qu'il va sauver en quelque sorte cette idéologie-là, alors que Bush lui-même a dû accepter de nationaliser les banques. Donc il a cette possibilité formidable de tenir un discours de démocrate, parce que la situation appelle d'autres remèdes que les politiques républicaines et les politiques des nouveaux démocrates à la Clinton. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'au plan international, la politique de Bush a été aussi un désastre sans précédent, puisque non seulement elle engage les États-Unis dans deux guerres que les États-Unis ne gagnent pas, c'est le moins qu'on puisse dire à la fois, la guerre d'Irak et la guerre d'Afghanistan, mais deux guerres qui coûtent aux États-Unis 150 milliards de dollars par an. Et puis, en plus, avec cette espèce de fièvre religieuse, etc., et puis d'intransigeance, et puis de manière de qualifier tous les adversaires de terroristes. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes avec les terroristes. On se souvient de cette phrase de Bush. Bush a en quelque sorte aliéné le monde entier. Successivement, tantôt les Russes à cause de ceci, tantôt les Chinois à cause de cela, tantôt les Coréens du Nord. Bon, il a des mauvaises relations, des relations exécrables avec toute une série de pays, ce qui fait que quand il veut en quelque sorte utiliser la pression de l'un pour obtenir des résultats avec l'autre, il ne peut pas le faire. Il ne peut plus utiliser, il ne peut plus avoir recours à la Russie pour faire pression sur l'Iran lorsqu'il s'agit du programme nucléaire, etc. Parce que il a soutenu Saakashvili, etc. Parce qu'il veut encercler la Russie, parce qu'il veut déployer des missiles en Europe, en Pologne et ailleurs. Donc il est inaudible en Russie, il est inaudible auprès de la Chine, il est inaudible auprès de l'Iran, il est inaudible auprès de la Russie et il est inaudible auprès de la Syrie et ainsi de suite. Il ne peut rien faire. Il a donc paralysé diplomatiquement les États-Unis. C'est ce bilan qui, en quelque sorte, constitue la grille qui nous permet de comprendre l'arrivée d'Obama au pouvoir. C'est parce que les politiques libérales sont en faillite et parce que les politiques impériales religieuses sont en faillite qu'il peut dire c'est le moment de changer. Donc, il est prêt à changer un certain nombre de choses, mais en même temps, il est élu par les Américains. Et il est le produit du système politique américain. En période de crise, en période de tension, en période de chaos, en période de flux. Mais il ne faut pas penser que Rosa Luxembourg va être élue présidente des États-Unis demain, parce que les Américains restent attachés à un système de propriété privée, qu'ils ont investi en bourse, que chacun, y compris mes amis les plus à gauche, etc., lorsqu'ils rentrent chez eux le soir, il leur arrive d'aller sur Internet pour voir quelle est la valeur de leurs actions, pas parce que ce sont des capitalistes rapaces, etc., mais parce que leur retraite est gagée sur ces actions, parce qu'il n'y a pas d'autre système aux États-Unis, qu'ils sont donc en quelque sorte pieds et poings liés, attachés à ce système qui passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc c'est ce président qui est élu. Alors, une fois qu'on sait que c'est ce président qui est élu, on se dit il a une marge de manœuvre qui est réelle, puisque le système précédent a été très largement ébranlé, mais en même temps, il est le président qui a été soutenu par un certain nombre de secteurs industriels et dont personne n'attend qu'il remette en cause fondamentalement le capitalisme.
D'accord. Donc, marge de manœuvre réduite, mais une certaine volonté.
Oui, une volonté en tout cas de revenir sur l'héritage des années Reagan, Bush, Clinton et de lancer un certain nombre de réformes progressistes. Parce qu'on peut critiquer les États-Unis, je ne me prive pas de le faire quand c'est nécessaire, mais dans le monde actuel, dans combien de pays, y compris en Europe, vous avez un président qui propose des réformes plutôt plus progressistes que celles de l'année précédente ?
Pas en France, déjà.
C'est pas en France, c'est pas au Royaume-Uni, c'est pas en Espagne, etc. Donc, quand on est sévère avec les États-Unis, il faut l'être quand même à l'aune de nos réalisations sur le continent européen, qui sont assez modestes. Je vous rappelle que lors des dernières élections, ça n'a pas été non plus un raz-de-marée progressiste, que je sache. Donc, aux États-Unis, vous avez un président qui dit qu'il va défendre le droit des syndicats, ce qui est quelque chose d'assez nouveau et d'assez courageux, qu'il va remettre en cause un certain nombre de traités de libre-échange s'ils mettent en cause les droits des salariés, et qui annonce qu'il va, dans sa première année, élaborer un système de protection sociale qui permettra de couvrir les 45 millions d'Américains environ qui n'ont aucun système de protection sociale. Il faut savoir que maintenant, quand vous êtes américain et que vous perdez votre emploi, vous perdez aussi votre couverture maladie dans près de 60% des cas. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus d'emploi et puis si vous tombez malade, il faut que vous payiez. Et aux États-Unis, ça coûte particulièrement cher. Donc c'est pas une question mineure de couvrir tous les Américains. Surtout dans les temps de crise qu'on connaît où les licenciements sont massifs. Eh bien, il a promis qu'il y aurait une réforme. Alors maintenant, je dis, attendons. C'est un peu comme son discours du Caire où il tend la main au monde musulman, ce qui, à mon sens, était peut-être pas la meilleure formulation, parce qu'après tout, c'est pas tellement les États-Unis qui ont un problème avec le monde musulman, c'est les Palestiniens qui ont un problème avec la colonisation israélienne. Mais enfin bon, acceptons tout de même ce discours. Ça n'est qu'un discours. Et il faut voir que jusqu'à présent, il n'a pas encore eu le temps de faire grand chose sur le front de la réforme du système de santé, mais il a pris un engagement, ni sur le front de la réforme syndicale. Mais ce sont des engagements qu'il a pris et ce sont des engagements qui vont dans un sens progressiste.
Alors, un petit aparté, puis on reviendra peut-être à la crise. Donc il a dit vouloir arrêter la guerre en Irak, mais malgré tout, en Afghanistan, ça va repartir de plus belle, d'après ce qu'on a compris. Est-ce qu'on peut apporter des précisions sur ce point-là?
Je crois que dans le cas de l'Irak, il a réitéré l'engagement qui avait été pris par son prédécesseur, mais qui n'aurait peut-être pas été tenu par son prédécesseur, de retirer toutes les troupes américaines dans 2 ans. Ce qui, soit dit en passant, signifiera quand même que les troupes américaines sont restées 8 ans d'affilée ou 9 ans d'affilée en Irak. C'est quand même beaucoup. C'est 2 fois la durée de la Première Guerre mondiale. Donc il a pris cet engagement et je crois qu'il le tiendra. En revanche, dans le cas de l'Afghanistan, il a effectivement non seulement réitéré, enfin prolongé la politique de Bush, mais envoyé, je crois, 17 000 soldats supplémentaires dans un conflit dont je pense qu'il n'est pas gagnable pour les États-Unis. Mais il faut voir qu'il y a une charge symbolique particulière lorsqu'il s'agit de l'Afghanistan, puisque les Américains pensent spontanément au 11 septembre, à Osama bin Laden, etc.
C'est un peu trop tôt.
Bon, oui. Il se rappelait quand il...
Moi, je n'aurais pas fait ce qu'il a fait à propos de l'Afghanistan, mais je ne suis pas président des États-Unis. Et je pense que si j'avais fait ce que je souhaiterais faire aux États-Unis, je ne serais pas resté président longtemps. Donc, vous pouvez difficilement mécontenter les groupes d'intérêt, tous les groupes de pression à la fois.
C'est très trop tôt, en fait.
Voilà, vous pouvez difficilement à la fois mécontenter le lobby des assureurs avec une réforme médicale, le lobby israélien avec votre politique au Proche-Orient, le lobby militaire en disant que vous allez réduire le budget du Pentagone, etc. Et penser que vous allez rester président des États-Unis, parce qu'il y a tout de même une chose qu'il faut rappeler lorsqu'il s'agit des États-Unis, qu'on n'a pas toujours à l'esprit, c'est que c'est un système à l'intérieur duquel le président ne peut pas grand-chose si le Congrès ne vote pas les propositions que le président fait. Et le Congrès est constitué d'élus qui sont particulièrement indépendants et rebelles, qui n'obéissent pas au président. C'est pas l'UMP et Sarkozy, à tel point que lorsque Carter avait été élu président des États-Unis en 1976, il avait vu, lorsqu'il avait voulu faire une réforme de la politique de l'énergie, cette réforme n'allait nulle part, parce que les élus, étant eux-mêmes financés par un certain nombre de lobbies énergétiques, ont refusé de voter les réformes qu'il leur propose. Donc en l'état actuel des choses, Obama est obligé de s'assurer qu'il disposera d'une majorité à la Chambre des représentants et au Sénat pour que les réformes qu'il a à l'esprit, qu'elles concernent la réforme, qu'elles concernent la couverture médicale ou qu'elles concernent les droits des syndicats, aient la moindre chance d'être adoptées.
D'accord. Alors pour recentrer sur la crise, par exemple Pierre Consaldi, question, est-ce que les... Il me regarde avec des yeux, est-ce qu'il va me tomber sur le coin du nez?
Vous serez noté.
Hein. Certainement. En fait, voilà, moi, c'est qu'il y a eu la perte, bon, il y a eu la perte du pouvoir des États sur leur économie, sur l'argent. Puisqu'on parle de réforme du capitalisme, est-ce qu'il y aurait une velléité, peut-être, une possibilité de reprendre le contrôle de l'argent? Est-ce que c'est possible en Europe par rapport à la BCE?
Reprendre le contrôle de l'argent, c'est-à-dire...
De la production de la monnaie, en fait.
Ah. Est-ce que ça sert à quelque chose? Réponse simple, tout est possible. Oui. Hein, ça, c'est clair.
Non, parce qu'il y a on parle de réforme, on nous parle, on va changer ceci, on va changer. Oh là là, on a tout compris, ça s'est effondré, c'est pas bien ce qu'on a fait, on va tout refaire.
Non, mais il y a ce week-end. Enfin, parce qu'on vient de parler d'Obama, il y a aucun souci là-dessus. Ouais. Puisqu'on l'a fait dans un sens qui était. On a suffisamment parlé il y a quelques années avec le traité, bon, ça revient aussi, en créant la Banque Centrale Européenne. Qui en fait, les États se sont dessaisis d'un certain nombre de fonctions qu'ils pouvaient assumer auparavant. Donc c'était un acte tout à fait pensé, réfléchi. C'est pas personne ne les a obligés à faire cela. Il est tout à fait possible de. Non, enfin, je veux dire, les dirigeants politiques étaient là.
Ah, eux, non, j'étais pour.
Voilà,
pas de problème,
non, mais c'est ça que je veux dire. Parce qu'on a souvent. Enfin, on peut avoir de temps en temps l'image, pour être plus nuancé, d'un processus européen qui s'imposerait par.
Qui tomberait un peu du ciel.
Le processus européen, c'est effectivement des traités qui, au fil des années, phagocytent un certain nombre de politiques, c'est vrai, mais ces traités, ils sont. Toujours signé par les dirigeants de l'époque. Mmh. Et donc, Après, il s'agit d'avoir un rapport de force au sein de l'Union européenne qui permet de les modifier. Ça, c'est une autre question. Mmh. Pas mince. Mais oui, s'il s'agit de redonner un pouvoir à la Banque centrale. Et d'ailleurs, cette crise est assez intéressante parce qu'on voit que tout ce qu'on nous disait, tout ce qui était impossible auparavant, l'exemple de la Banque centrale européenne.
Tout ça, on peut rien.
Alors les critères de convergence, ceux-là, ils ont explosé largement en vol, si je puis dire. Mais juste un petit exemple de la Banque centrale européenne, dont la mission unique est de, grosso modo, s'assurer qu'il n'y ait pas de d'inflation, enfin, pour être plus précis, qu'il n'y ait pas de variation trop forte. Ni à la hausse ni à la baisse, donc pas de déflation non plus excessive. Donc elle n'a pas, elle peut pour une banque, ça va pas curieux, elle prête pas normalement, elle peut pas prêter la Banque Centrale Européenne, sauf que il y a quelques mois, elle a prêté à la Hongrie, parce que la Hongrie était dans une situation très catastrophique et que vis-à-vis du monde financier et les difficultés qu'elle essaie de connaître, la Banque centrale a accepté de prêter. Donc on voit bien que tout ce qu'on nous présentait comme étant absolument impossible, même dans le cas des traités, on les transgresse dans un sens. Donc il n'y a aucune raison de ne pas imaginer qu'on puisse non seulement pas les transgresser, mais les changer, réorganiser un certain nombre de règles du jeu. Alors la question, si je comprends bien ce que au début, c'était dans quelle mesure on peut, à travers ça, changer les choses. Moi, ça me semble évident que ça a été dit par tout le monde, mais qu'il faut effectivement davantage d'intervention publique dans la période actuelle. D'ailleurs, on n'entend pas un autre discours de tous les dirigeants. Le G20, c'est ça, c'est le G20, ne vous inquiétez pas, on se réunit, on prend les décisions qu'il faut, il n'y a plus de paradis fiscaux, on réinjecte, on met de l'argent là où il faut, surtout pour le commerce mondial, parce que le FMI, c'est 90% des fameux, je ne sais plus combien de milliards qu'on remet, c'est pour soutenir le commerce mondial, pour que la machine ne s'arrête pas. Bon. Donc on prend des décisions, on intervient en tant que politique, parce que dans ces situations de crise, ça serait désastreux pour le pouvoir politique de dire on fait rien. On est des libéraux, donc on ne fait rien. Donc on intervient.
On intervient pour sauver les banques privées en faillite.
Tout à fait. On intervient dans
avec
un sens.
Avec l'argent des contribuables.
Exactement.
Et surtout, en s'interdisant d'intervenir sur des décisions internes aux banques, en France,
il n'y a pas de nationalisation véritable.
Oui, ça, c'est encore plus scandaleux. Oui. C'est-à-dire que l'État donne de l'argent sans même contrôler. Alors que ça fait quand même un certain nombre d'années, même avant la crise, qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui disent on peut pas donner de l'argent à l'État, aux entreprises, par exemple, avoir un minimum de contrôle. On a des tas d'exemples de sociétés qui. C'était quand même une activité, on va dire, assez forte pour un certain nombre d'entreprises, de rechercher les subventions, les crédits, d'en profiter, de s'installer un an, deux ans, trois ans, et puis de plier les bagages et d'aller ailleurs. Bon, tout ça, on a tous en tête des tas d'exemples de ce type-là. Donc, la question, c'est. Comment il est possible de faire pression sur ces décideurs politiques pour qu'ils prennent des décisions, je ne sais pas qu'ils n'en prennent pas, mais qu'ils n'aillent pas dans ce sens-là.
Mais on peut prendre, on peut leur proposer l'exemple des États-Unis où là il y a des aides publiques qui sont massives mais qui se traduisent par des prises de contrôle. On dit maintenant que General Motors c'est devenu Government Motors. Et effectivement, lorsqu'il y a eu un plan automobile, c'est Obama qui l'a annoncé, c'est Obama qui a obligé General Motors à vendre l'une de ses divisions qui fabriquait les voitures ultra polluantes, dont j'ai oublié le nom là maintenant.
C'est le Hummer,
les Hummer, voilà.
Ouais, bah, tu vois,
les véhicules militaires. Et qui a obligé ces entreprises à amorcer davantage le virage des carburants verts, etc. Là, il y a quand même cette logique, puisqu'on possède, puisqu'on aide, on possède, et quand on possède, on contrôle. Ce qui est extraordinaire, il me semble, dans le cas européen, en tout cas dans le cas français, c'est qu'il y a tous les avantages pour les investisseurs privés, quoi. Effectivement, c'est profit privé, perte publique, et aucun risque de subir le moindre contrôle, y compris sur la rémunération des dirigeants quand elle est pantagruélique.
Oui, ben d'ailleurs, là aussi, on pourrait prendre l'exemple sur les États-Unis ou d'autres pays qui ont mis en place des plafonds de rémunération. Sauf que ça, c'est effectivement tabou pour le MEDEF. Donc, compte tenu des bonnes relations entre Sarkozy et Laurence Parisot, il n'est absolument pas question de...
Mais je crois que ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est quand on se souvient du discours qu'on a subi depuis 10 ans ou 15 ans, genre, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Vous vous souvenez des critères de convergence de Maastricht, à un moment, on disait, c'était 3% du déficit public, et il y avait même un ministre des Finances allemand, je crois que c'était Theo Weigel, mais j'en suis plus sûr, qui disait pas 3%, c'est 3,00. Pour pas qu'il y ait le moindre doute qu'aucun pays n'ait la tentation de faire 3,2 en disant mais c'est 3. Non, donc on disait 3,00. Là maintenant aux États-Unis on est aux alentours de 13%. En France on nous a annoncé qu'on dépassait 6%. Il y a des pays européens où on est allègrement à 8. Qui fait ça? C'est pas les marxistes-léninistes qui ont pris le pouvoir. Non. C'est ceux-là même qui nous disaient que ces règles, elles étaient absolument inflexibles, etc., faute de quoi on allait à la catastrophe. Et dès que vous aviez un gouvernement de gauche, ils disaient « Oh là là, nous, on n'ira pas au-delà de 3% parce qu'on a compris, on est responsable, etc., on veut plus le croiseur Aurore et la prise du palais d'hiver ». Alors que quand il s'agit de Sarkozy, eux, ils s'en moquent complètement. Ils comprennent qu'il s'agit de sauver leur système et que quand les blés sont sous la grêle, faut qu'il fait le délicat.
Non, c'était frappant.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'aux États-Unis, ils se rendent compte, les grosses boîtes, c'est qu'il y a déjà deux banques qui ont remboursé pour pas avoir la mainmise.
Oui, pour éviter d'être contrôlé par l'État. Mais c'est vrai que c'était impossible tout ça il y a quelques années, il y a deux ans quoi, même pas.
Je crois que parmi ces banques, il y a même la Goldman Sachs, qui a cette particularité d'avoir presque offert un de ses patrons pour en faire un ministre des Finances à deux ou trois administrations successives, en tout cas à l'administration Clinton, et puis après à l'administration Bush-fils.
Ils n'en ont pas voulu.
Non, c'est-à-dire que comme ça, il y avait au moins une coïncidence qui rendait plus simple la gestion des affaires. Vous aviez le patron de la Goldman Sachs qui devenait ministre des Finances et qui accordait des facilités de crédit faramineuses à sa banque quand elle en avait besoin.
Encore qu'on ait eu le frère de nos chers présidents qui était le numéro 2 du MEDEF aussi.
Non, il s'est présenté, mais c'est pas lui qui a été retenu.
Il a été numéro 2, il s'est présenté pour être numéro 1.
Ça se voyait trop. Ils avaient déjà placé le fils à Neuilly. Donc
c'est pas parce qu'on est le frère du président qu'on n'a pas le droit, n'est-ce pas? C'est un système aux États-Unis qu'on appelle les revolving doors, il me semble. Mais enfin, c'est pas du tout limité à certains postes. Il me semble que c'est systématique, hein, la plupart du temps.
Non, c'est l'idée que pour bien connaître un secteur, il vaut mieux l'avoir dirigé comme patron dans un groupe privé. Il y avait même ça au moment de la, je crois que c'était au moment de la Première Guerre mondiale qu'ils avaient lancé ces commissions qui devaient en quelque sorte conseiller l'État sur ce qu'il devait faire en matière de politique industrielle. Et la grande idée, ça avait été de nommer tous les patrons des grands secteurs d'industrie qui après déterminaient ce que seraient les lois les visant, et naturellement ils avaient une appréciation assez généreuse de ce que ces lois devaient être.
Ça, c'est la caution de la compétence qu'une fois encore on retrouve en France avec l'histoire qui a fait hurler mais qui est quand même passée. avec le manque de déontologie dans la nomination à la tête du nouveau groupe qui a sauvé, enfin de récupération de Dexia et des autres banques au passif oui, au passif conséquent
aussi dans
en y mettant que... c'est ça c'est un phénomène bon. C'est vrai que le pantouflage existe en France depuis qu'il y a moyen de pantoufler, mais là c'est un peu plus visible. Est-ce qu'on pense que avec parce que la crise finalement n'empêche pas ça en France, on risque de l'observer de plus en plus.
Ce que ça semble provoquer maintenant, c'est un changement de sens du pantouflage. C'est les gens qui reviennent du privé vers le public.
La fonction publique.
Parce qu'ils estiment que c'est plus sûr par les temps qui courent.
Les fonctionnaires alors.
On marque une petite pause, à moins qu'il y ait d'autres questions.
Et puis on va dire que les auditeurs peuvent nous appeler au 01 43 71 89 40 pour quelques questions pendant la musique. On va arriver à glisser deux morceaux, je pense.
Oh, sans doute, oui. Je tenais quand même à remercier les syndicats de Radio France qui ont eu le bon goût de faire grève.
Voilà, ça nous
ce
amène
soir.
Les auditeurs.
Ça nous amène les auditeurs
jaunes.
Parce que j'ai écouté un peu ces ondes-là et c'était vraiment chiant.
Mais c'est organisé, c'était très long à faire, je te signale.
C'était très long à faire, oui. Voilà, une chanson choisie d'un commun accord avec Pierre Concialdi et moi-même.
Il y a du bulard dans l'air.
Il y a du bulard dans l'air. Et
vous avez dit copinage.
Voilà, et c'est du copinage. On le revendique, nous, à Radio Libertaire. Et
avec Pierre, ça va, c'est pas un problème.
C'est un morceau qui s'appelle Démocratie. Ça parle d'un nain jaune bien connu de notre
01
pays.
43 71 89 40.
Et vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire.
La voix sans Dieu, c'est ni maître.
De la fédération
Bouille-Pouille,
anarchiste.
Ainsi le vieux menteur a quitté le pouvoir. Et le peuple souverain, appelé à voter, a choisi Lise Nogoud, le teigneux à l'œil noir, pour marcher à sa tête, pour le représenter. Et le peuple souverain, chapeau la clairvoyance, par sa majorité librement exprimée, l'a jugé respectable et méritant confiance, et digne qu'on le suive, et digne d'être aimé. Douce France. Ainsi le Matamor et ses rodomontades se retrouvent enfin calife, des années qu'il se pousse, qu'il intrigue et grenouille, planqué en embuscade, prêt à tout pour devenir le premier d'entre tous. C'est une vie d'ambition qui est couronnée ici, marquée par le mensonge et le mépris des lois, où la trahison est une pratique établie, où les promesses n'engagent que celui qui les reçoit. Douce France! Ainsi le familier des salons milliardaires, le partisan de toujours des inégalités, l'empêcher d'entrer dans les quartiers en jachère par un tour de passe-passe, hop là, aurait changé, dissimulant ses crocs, le voilà qui se pose en héritier des justes, en agneau patelin, à peine s'il porte pas à son revers une rose, et le public baba applaudit des deux mains. Douce France! Ainsi dans le camp d'en face, les éléphants barissent et poussent des cris de baronnes effarouchées, alors qu'ils sont semblables et compères et complices, plus une once d'audace, plus l'ombre d'une idée, et les ondes flagornent et la presse est muette, je veux dire qu'on y voit guerre d'indignation. Ça n'a rien d'étonnant, puisque toutes les gazettes, ou quasi, appartiennent aux marchands de canons. Douce France! Ainsi les renégats viennent à la gamelle, sans vergogne à la soupe, les plats en rang serré, arrivistes et faux culs se ramassent à la pelle, le spectacle est superbe en même temps qu'à pleurer, et le cow-boy obtus dans sa marche à la guerre, bénissant le dieu bon compte un allié de plus, pleurer les démunis, crever les pauvres hères, voici le temps des brutes, le temps des parvenus, la pauvre consolation que l'on pourrait avoir, mais je ne sais s'il y a lieu de rappeler ça, c'est que si le peuple est encore en couillon, dans l'histoire, un cornard, un cocu, un porteur de grand bois, il l'est pour cette fois, pas tout seul dans ce cas. Douce France!
Oui, on va juste rappeler que c'était Michel Buller, que ce disque vous pouvez le trouver à Publico, à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, bien sûr. Tout le monde connaît. On va peut-être passer une deuxième musique parce qu'il y a du monde, visiblement, des appels. Et puis, le morceau qui suit, ça va être du rock'n'roll. Et c'est Marie-Jeanne, évidemment. Nick Cave and the Bad Seeds.
Hein, c'est australien, c'est ça, hein?
Muy bien.
C'est de Melbourne. Là, c'est du rock. Vous avez du rock de Merle de Melbourne ce soir. Voilà. Carrément. Radio Libertaire 89.4. Voilà. Et quelquefois, ça ne démarre pas, mais ça, vous êtes habitué, quelquefois, ça ne démarre pas. Voilà. Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. He had to get out of there, and San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back in the streets in New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's got me something going on. Nick Cave and the Bad Seeds. Le débat continue hors antenne, évidemment, comme d'habitude.
Oui, on parlait informatique.
On parlait informatique,
tu veux tout savoir.
Bon, ah ben non, je...
Transparence à Radio Libertaire.
D'ailleurs, on va pouvoir rappeler les six, hein, puisque c'est...
C'était pour faire un lien hyper professionnel, un hyper lien même, pour rappeler qu'il y a un site quand même de la Pente du Carmel, donc de la Pente du Carmel.free.fr, un site magnifique aux couleurs vertes et jaunes.
Chatoyante.
Toujours aussi chatoyante, n'est-ce pas? site sur lequel vous pouvez y trouver donc les émissions, l'émission spéciale qui est en cours en ce moment. Et ensuite, vous pouvez aussi trouver des textes, les textes qu'on écrit en général et que vous retrouvez les lundis soirs. Parce que l'émission, normalement, c'est le lundi soir, 22h30.
Ah oui, il faut le dire.
Voilà. On va en profiter pour rappeler le site de la Fédération anarchiste et le site de la radio. Hein, donc, www.fédération-anarchiste.org et le site de la radio, le site quasi officiel, media.radio-libertaire.org, où vous pouvez nous écouter sur Internet.
Tu l'as dit tellement vite que j'ai pas eu le temps de le noter.
Mais media.radio-libertaire.org.
Ah, ouais, voilà. Bah vous tapez libertaire dans un moteur de recherche, ça sort,
voilà,
je vous
garantis. Maintenant, ça tombe dessus.
Absolument.
Ce sera pas le MEDEF.
Dans le troisième ou quatrième ligne.
Alors,
il y a de l'interactivité, hein, mais pas Internet, et on a recueilli des questions des auditeurs.
Vas-y, Lulu.
Je t'en prie.
Mais battez-vous.
Ouais. Il y a des questions de question, Serge. Alors,
compte tenu de la crise, est-ce une opportunité pour un mouvement social? C'est une question.
Mais Chérec, Thibault et Maï ne sont pas là, donc ça va être difficile de pouvoir répondre.
Et la réponse ce samedi dernier, donc. Non, je ne sais pas, que vous en pensez quoi? On parlait de changement et d'occasion de changement là, tout à l'heure.
Ça me fait penser à autre chose. Pas une réponse directe, hein, évidemment, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit, un monsieur qui s'appelle Karl Polanyi, qui a écrit en 1943 un bouquin qui, je pense, est toujours d'actualité. Alors, quand il est sorti en France en 1983, peut-être il y a une lecture un peu différente. Alors, je vais essayer de résumer, c'est forcément mauvais. Hein, mais sa thèse centrale, quand même, c'est de dire, à travers l'expérience historique, enfin bon, à travers en mobilisant de multiples approches disciplinaires, c'est de dire le laisser-faire des marchés, ça conduit à la catastrophe. Et donc, par rapport à ça, les sociétés engagent ce qu'il appelle un contre-mouvement. Enfin, on va se produire des contre-mouvements, c'est-à-dire des réactions. Faut bien préciser que dans l'idée de Polanyi, c'est pas des réactions positives, c'est parce que les gens subissent des pressions insupportables qui finissent par se révolter, s'organiser, se bouger, on va dire aujourd'hui, pour changer les choses.
Hein. C'est la grande transformation.
On a la grande transformation, oui, il faudrait quand même citer. Et je trouve que cette thèse est toujours d'actualité, enfin, je veux dire, parce que là on y est, enfin, il y a un passage en Polanyi où il dit, si on laisse faire le marché, eh ben, c'est le chaos, quoi, grosso modo. Et je pense qu'on s'en est rapproché quand même pas mal aujourd'hui. Et donc voilà, si on suit cette thèse, et d'ailleurs, ce qu'on a observé quand même depuis 1995, CITEL, le développement d'associations comme ATTAC ou d'autres en France et puis d'autres mouvements, c'est quand même une forme ça correspond un petit peu à cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a des formes de résistance, on pourrait dire, qui se manifestent sous des formes qui ne sont pas les mêmes qu'autrefois. C'est-à-dire que les syndicats, etc., effectivement, n'ont plus la même présence dans le jeu social qu'ils avaient pu avoir à différentes époques, pour différentes raisons aussi. Voilà, donc on est dans cet entre-deux-là où on voit émerger ça, et donc la réponse est oui.
Oui, enfin, la grande transformation, elle peut se faire dans des tas de sens divers. Ça peut être dans les années 30, le Front Populaire en France, mais ça peut être aussi le fascisme en Allemagne, ou ça peut être dans les années 30, rien du tout, comme le Royaume-Uni. Alors que le mouvement de crise était au moins aussi puissant au Royaume-Uni qu'ailleurs. Et en ce moment, on est dans une situation où, il faut bien dire, il ne se passe pas énormément de choses. On évoquait les États-Unis tout à l'heure. Les États-Unis sont l'un des rares pays où il y a eu un changement politique, bon, d'ampleur modeste par rapport à nos espérances, j'imagine, mais un changement politique réel qu'on n'observe pas dans les pays européens. Il n'y a pas de remise en cause fondamentale. Et il n'y a pas de remise en cause fondamentale, peut-être parce que ceux qui sont les principaux responsables de la crise se présentent comme les médecins qui vont y mettre un terme, et puis parce que un certain nombre de formations de gauche qui auraient dû se présenter comme les critiques de l'ordre social ont été tellement associées aux politiques conduites pendant une vingtaine d'années
qu'ils sont ou qu'elles sont assez largement discréditées elles aussi, et que
le Parti socialiste pour la France
du côté de voilà, et que du côté de l'autre gauche ou de la gauche de gauche, comme disait Pierre Bourdieu, pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas de proposition alternative qui émerge, et qu'il y a peut-être cette tentation qui consiste à croire qu'il suffit de juxtaposer un certain nombre de demandes qui nous feraient plaisir, les unes et puis les autres, si on avait ceci, et puis si on avait cela, et puis ceci, sans se poser la question de l'articulation de ces demandes dans un mouvement politique, dans une plateforme quelconque. Parce que très souvent, dans tous les mouvements, vous avez des gens qui peuvent être d'accord avec l'une des revendications que vous portez, mais pas avec la seconde, qui peuvent même détester la seconde revendication, ou détester la troisième, ou ne vouloir à aucun prix s'allier avec une partie des victimes de la crise, parce que pour eux, c'est encore pire que d'être engagé dans le combat contre ses adversaires. Et cette question d'articulation politique, elle reste posée, et tant qu'elle ne sera pas réglé d'une manière ou d'une autre par la gauche de gauche, ben c'est ceux qui ont le pouvoir qui le conserveront.
Oui. Oui, il y a un auditeur qui demande si vous connaissez les aventures de la marchandise de Jacques Anselme. Il oppose le capitalisme financier méchant au gentil capitalisme industriel, mais selon lui, bien sûr, c'est la même chose. Hein, parce qu'on a tendance à dire les méchants financiers et les bons industriels.
Bah, c'est le capitalisme de papa, le gentil capitalisme. On en a parlé pas mal quand même à un moment, je crois.
Alors aujourd'hui, Sarkozy appelle ça le capitalisme d'entrepreneur. Il veut plus de capitalisme financier. Non. Bon, je pense qu'on reviendra dessus à l'occasion de la refondation du capitalisme.
Bah, on peut y aller.
On peut même y aller directement.
À moins qu'il y ait d'autres questions.
Capitalisme d'entrepreneur.
J'en ai une remarque. C'est pour ceux qui veulent acheter des actions EDF, la Banque Postale prévient que ce n'est plus la peine. Elles sont toutes vendues. Il y en a pour 1 milliard.
Voilà, et puis
donc il y a toujours des petits porteurs prêts à se faire avoir. Hein.
Je crois que ça, c'est l'histoire du prêt qui a été discuté dans le prêt d'un milliard dans le...
Oui.
Comment s'appelle ce journal?
Le point.
Le canard enchaîné, voilà. Il y a un petit encart sur le sujet.
Enfin, comme les porteurs peuvent toujours vendre une partie de leurs actions, à mon avis, vous en retrouverez quelques-unes sur le marché.
Voilà, il y a une autre remarque aussi de Serge, un petit peu pointu sur l'éducation, et qui interroge en particulier Pierre Conchaldi sur la réforme à l'université de la mastérisation. Et puis également, ça rejoint un peu ce dont parlait Serge tout à l'heure, mais dans cette particularité, le renoncement de la FSU, principal syndicat enseignant, qui a décidé de laisser son feu vert à la réforme d'Arcos. Voilà. Bon, c'est ainsi. Voilà.
Donc, question des auditeurs. C'est pour tu. Hein.
C'est plus une remarque, si je comprends bien, quand même.
Oui, c'est pas vraiment une...
Il y a Françoise aussi qui parlait qu'il faut parler de la France. Là, justement, où on est, il y a des gens qui... Les SDF qui viennent chercher à manger, c'est de plus en plus important. Donc elle disait qu'on parle des États-Unis et tout, mais il faudrait parler un peu de la France aussi. De la misère.
Bah, elle est partout. Après, nous, on était partis... Sur le départ de la crise, c'est-à-dire bon, la chute d'une banque aux États-Unis et c'est le résultat de ça. Après, bon, ça impacte sur le monde
mais
entier.
C'est vrai qu'on pourrait essayer de savoir si l'impact social, enfin, les entreprises licenciées, admettons, c'est ce qu'on entend véritablement chaque jour. Bien sûr.
Mais... Donc les entreprises licencient et par contre la pression sociale est de plus en plus forte, c'est-à-dire que le contrôle, le flicage des chômeurs, la préparation des employés, par exemple du Pôle emploi, à culpabiliser le demandeur d'emploi est de plus en plus forte aussi, c'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus de pression pour faire pression eux-mêmes sur les chômeurs qui sont victimes d'un système, tout en essayant de leur faire reporter sur leur dos la culpabilité de leur échec. Donc ça d'ailleurs on le retrouve pas mal dans votre bouquin sur la précarisation et sur la responsabilité qu'on essaie de faire porter quand même aux précaires.
Là, on en rajoute une grosse couche quand même avec le RSA.
Avec les RSAIE, maintenant, peut-être je pense qu'on va dire, parce que les RSAIE, j'avais trouvé ça.
Je ne sais pas comment dire. Non, je pense que c'est... Parce que la grosse couche, c'est que quand même... on change de, on introduit une obligation d'insertion, un devoir d'insertion. Alors, il y avait tout un débat au moment de la création du RMI. Est-ce que le I va être une opportunité de plus donnée aux gens à qui on donne un revenu minimum, ou alors est-ce que ça va être une obligation de contrepartie? Moi, je me souviens d'un article de Jean-Jacques Dupérou à l'époque dans Le Monde, qui était la soupe après la prière, point d'interrogation. Donc c'est ça, c'est, est-ce qu'on va pas subordonner le droit au revenu minimum à au fait de d'une contrepartie? Là, on y est avec le RSA, parce que en dessous d'un revenu, si vous n'avez pas 500 euros, si vous avez moins de 500 euros de revenus, vous êtes automatiquement dirigé vers la case Pôle emploi pour qu'on vous propose des offres raisonnables d'emploi. Sachant que vous
ne pouvez pas. Raisonnable, oui.
C'est le vocabulaire aujourd'hui. C'est plus valable, c'est raisonnable. Enfin, ou déraisonnable, on devrait dire. C'est vrai que moi-même, j'ai joué un peu là-dessus dans les papiers. Bon. Mais que vous ne pouvez pas refuser. Enfin, sauf pas plus de deux fois. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à quelqu'un qui a moins de 500 euros, sachant que l'offre raisonnable, grosso modo, elle se définit par rapport au niveau du salaire, donc des petits boulots, etc. Et on a déjà vu des exemples de, je sais plus dans quel endroit, je pense que c'est dans l'Est, d'un conseil général qui avait sous-traité des activités de nettoyage à une entreprise et qui n'a pas réembauché des gens, donc ils se retrouvent dans une situation tout à fait, ils sont pas vraiment licenciés, mais pour donner les emplois aux gens qui étaient au RSA, en disant, avec ce motif qui me semble bon, en disant mais il faut bien leur proposer quelque chose à ces gens qui sont au RSA. Et là on voit tout à fait comment fonctionne le RSA, c'est-à-dire c'est une mise en concurrence généralisée, hein, la déstabilisation du noyau encore de salariés qui reste stable, à travers la concurrence, on peut dire, hein, organisée, des gens qui vont être au RSA et qui ne pourront pas refuser.
Concurrence des pauvres entre eux.
Tout à fait. Mais ça, déjà, c'est déjà le cas, hein, avec tous les dispositifs qu'on a mis en place, et notamment les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, qui fait que le temps partiel, qui organise aussi des formes de précarisation qui tourne, hein, parce qu'on, bon, je terminerai là-dessus, mais bon, parce qu'on a souvent l'image des ex-RMistes et des futurs personnes au RSA, bon, il faudra trouver ou pas un nom, comme étant des gens majoritairement très désocialisés. Or, c'est faux. Majoritairement, ce sont, j'allais dire, des gens comme les autres. Il y a 20 ans, avant les réformes de l'indemnisation de chômage, ça aurait été des chômeurs indemnisés. Voilà. Avec les coupes claires qui ont été faites dans ce système, ce sont devenus des RMistes. Aujourd'hui, ils sont au RSA avec cette obligation de trouver un emploi, alors qu'il faut quand même le rappeler, il y a 2,5 millions de chômeurs, 1,4 million de personnes officiellement en sous-emploi. Bon, c'est des injonctions qui sont proprement insoutenables.
Oui, c'est but. Est-ce qu'on peut, enfin, on vous enlève les emplois d'un côté, on vous force à en trouver de l'autre. Enfin, on met le citoyen dans une situation où, de toute façon, il est coupable, il trouve rien, il est précaire, il est pauvre, et on lui met un marteau sur la tête, on lui met une enclume dessous, et puis on y va, quoi.
C'est-à-dire que, malgré la crise, cette idée continue à perdurer, effectivement. Oui. C'est-à-dire que si vous êtes au chômage, c'est de votre faute, grosso modo. Oui. Et donc ça, il y a encore un gros travail, je pense, à faire pour changer vraiment la représentation dans ce domaine-là.
Et rappelez que l'assurance chômage, justement, c'est une assurance. C'est pas un cadeau qu'on fait aux gens, c'est pas, monsieur, on vous donne l'aumône, vous avez perdu votre boulot, et les gens ont cotisé. Donc c'est une assurance et ils ont le droit à ce qu'ils touchent donc, derrière.
Je crois que c'est un petit peu le même problème qu'il y a sur l'assurance maladie et l'assurance retraite.
Pareil, tout ce qui est assurance en fait. On essaye discrètement quand même de nous faire croire que c'est un cadeau.
Sans compter l'intox qui est fait autour du RSA en montrant à la radio à la pub qu'il y a en disant c'est bien, ça permet aux gens d'avoir un plus et tout.
Mais, et puis, est-ce que le dégrèvement des charges sociales, est-ce que ensuite, ça ne participe pas à ce que l'on appelle ce gigantesque trou de la sécurité sociale, justement? Parce que j'ai cru comprendre que beaucoup de ces dégrèvements sociaux, bien, l'État les prenait théoriquement en charge, mais en fait, le budget de la sécurité sociale, qui est un organisme théoriquement indépendant du gouvernement, ne revoit pas la couleur de cet argent.
En résumé, non, j'explique. Ça fait beaucoup d'argent qui change de... Ça change des circuits financiers, mais en fait, l'État ne compense quasiment l'intégralité. Il doit y avoir peut-être 5% des exonérations qui ne sont pas compensées, comme on dit, mais sinon, elles sont compensées. Donc, le vrai changement, c'est le changement de la structure de financement. Au lieu de financer par des cotisations sociales, on finance par l'impôt. Et ça, c'est un vrai changement dans la durée, parce que ça, c'est une logique de politique de transfert qui n'est pas forcément la même dans la durée. Bon, quand on le déficit de la Sécu, on va peut-être pas en parler là.
C'est
quelque chose d'un peu différent. Il faudrait vraiment rentrer dans les détails. La notion même de déficit, qu'on dit souvent, elle a aucun sens pour la sécurité sociale. D'accord. C'est pas une entreprise.
Enfin, on en est une période où on est en train de penser peut-être à supprimer les 100% pour les graves maladies.
C'est sûr que toutes les réformes qui sont en ce moment-là, que ce soit en matière d'éducation, de santé,
de retraite,
on casse les deux piliers, enfin deux des gros piliers quand même de notre système social que sont l'éducation et la santé. Là, c'est vrai que d'ici quelques années, assez vite...
Dernier qui reste quasiment, puisque tout a été cassé depuis une trentaine d'années par les gouvernements successifs.
Mais là, c'est vraiment quelque chose qui va très très fort et qui peut aller très vite.
Oui, par ailleurs, on va financer des établissements privés, je suppose, voire pour l'éducation, des établissements religieux aussi.
C'est déjà fait.
Alors, le traitement de la crise par les médias.
Justement, mais avant de passer à ça, on va y revenir. Les entreprises aujourd'hui licencient, comme je le disais. Est-ce qu'il faut voir ça comme un effet véritable de la crise financière, du manque de manipulation, enfin d'argent à investir, etc., dans un but de croissance, ou est-ce que c'est la plupart du temps plutôt une aubaine pour certains industriels qui leur permet de délocaliser encore plus, d'accélérer la transformation du tissu industriel dans nos pays.
Ouais, il faudrait regarder au cas par cas. Moi, je pense que surtout la crise, pour le dire vite, on rajoute une couche de plus dans le chantage que les entreprises, enfin les employeurs, les patrons, peuvent faire vis-à-vis de leurs salariés. Ça introduit une pression supplémentaire. C'est pas toujours la simple menace de délocalisation est en elle-même un moyen de pression pour faire accepter des choses.
Ce qui est arrivé.
Encore
exemple récemment où des salariés ont accepté de travailler plus longtemps, de renoncer aux tarifs des heures supplémentaires, etc. On leur a promis, etc., qu'ils allaient conserver leur emploi un certain nombre d'années. Puis en fait, bon, au bout de la fin de l'année ou un an plus tard, monsieur, merci, vous avez été très rentable et puis on va délocaliser en Slovénie ou je ne sais où. Donc voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, je ne vais pas faire moi le cabache, mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la part des salariés qui acceptent un peu tout pour essayer. Je sais qu'ils sont dans des conditions où ils n'ont pas forcément accès à ces informations-là, etc. Pas tous d'ailleurs, à mon avis. Mais est-ce qu'à un moment, il faut peut-être ouvrir les yeux et se dire faut arrêter, quoi. Peut-être arrêter tout accepter et se dire vaut mieux perdre maintenant ou se battre maintenant. Et...
On commence quand même à voir ça.
Il commence à y avoir beaucoup d'exemples comme ça.
C'est que ça sont de patrons, les mouvements qui durent quand même dans la durée. J'ai plus une en tête, mais enfin bon, ça régulièrement les voit dans l'activité. Donc je pense qu'il commence à y avoir vraiment une exaspération très forte. Donc là-dessus, je pense que ça change un petit peu quand même.
Tant mieux. J'espère, j'attends de voir. J'ai du mal à comprendre que maintenant, quand il y a une information, ça circule quand même dans les réseaux, même pas forcément parmi les syndicats, et de voir que je sais bien qu'il y a beaucoup d'aspects qui entrent en compte sur la soumission, sur la condition du prolétaire dont je suis issu. On nous a toujours mis dans le crâne qu'il fallait être respectueux, fermer sa bouche, dire bonjour monsieur, bonjour important, etc. Et qu'on n'était pas de la même race d'une certaine manière, et que c'est eux qui dominaient, et que nous on était en dessous. Donc est-ce que par l'éducation parallèle, on va dire, parce que c'est pas dans l'éducation nationale qu'on verra beaucoup ça, mais arriver quand même à ouvrir un maximum de conscience, de se dire il faut arrêter de ramper, quoi, il faut arrêter de marcher, et en face de nous il n'y a pas grand monde, quoi. J'essaie de dire ça pour les gens peut-être qui nous écoutent et qui sont un peu dans cette situation en disant je peux, j'ai pas le choix, je suis obligé, je dois nourrir ma famille, mon patron il me dit ça, je fais ça, il me paye comme ça, je dis ce qu'il me fait, enfin je fais ce qu'il me dit, etc. Est-ce qu'il y a pas, je sais pas, quelque chose à leur dire pour leur dire d'arrêter de ramper, il va mieux lutter tout de suite, arrêter tout. Est-ce qu'il vaut pas mieux passer directement au chômage, je ne sais pas. Est-ce que
C'est
qu'on parle de crise et je dis, je paraissais trop les éloigner de la réalité des gens.
Ça dépend si tu as acheté un appartement à crédit.
Bah là, c'est mort. Hein, la vie qui continue parce que sinon, il est mal barré. Quoi. Faut pas qu'il s'arrête. Ouais, c'est le problème, faut pas acheter. Quoi.
Non, je pense qu'effectivement, c'est lié. Hein. Je pense que la société qui est une société d'hyperconsommation, pas forcément les gens qui sont menacés de chômage qui consomment le plus, mais enfin quand même bloque aussi un certain nombre de comportements et je pense aussi, mais bon là je suis pas vraiment spécialiste, mais enfin mais quand même dans ce monde ça peut être une transition vers la question de la métallisation, mais on vit une époque où on est beaucoup plus informé justement de ce qui se passe partout ailleurs. Et grosso modo la mondialisation, ça sert quand même à dire aussi ça pourrait être encore bien pire, quoi.
Ça arrête jamais aussi à ce moment-là.
Non, mais c'est un vrai cercle vicieux. Moi, une anecdote et puis j'arrête. Mais il se trouve que j'ai travaillé un peu sur la question des coûts salariaux, de la compétitivité. Et puis je suis allé dans des pays comme la Chine ou en Inde. On tient exactement le discours. Aux salariés, si vous ne serrez pas la ceinture, c'est pas bon. On va délocaliser. Alors en Chine, on ne dit pas on va délocaliser. On dit les capitaux ne vont plus venir. Bon, mais c'est toujours la même menace, c'est-à-dire serrez-vous la ceinture, sinon ça va être encore pire. Et c'est là qu'on a ce cercle vicieux. On parlait tout à l'heure d'un partage de revenus inégalitaire. C'est vrai dans tous les pays, y compris en Chine d'ailleurs, où les salaires sont réduits à la portion congrue. Donc on a ce cercle vicieux qui fait que il y a une difficulté à résister à ce rouleau compresseur libéral.
Bien. Tu avais quelque chose à dire, frère Oxide, sur le G20, une question, quelque chose, et puis
Non, mais pour finir sur la question des entreprises, a priori, on n'a pas grand chose à attendre aujourd'hui, la situation actuelle, malgré tout, puisqu'ils vont, les entreprises vont malgré tout, continuer toute leur stratégie aujourd'hui de délocalisation, il n'y a aucune raison. Le capitalisme d'entrepreneur est quand même assez mal barré, disons,
les contribuables.
Il y a cette fameuse phrase de François Mitterrand qui disait
qui ça ?
Vous pourrez dire tout ce que vous voulez, et moi aussi, les chefs d'entreprise iront toujours là où c'est le meilleur marché. Et nous n'y pouvons rien. Voilà. C'était un peu la pédagogie de la soumission dont il était l'un des grands maîtres.
Alors bon, donc ça reprenait un peu ce qui était sur l'affiche des questions d'auditeurs, je pense, c'est ça. Alors est-ce que vous avez des solutions concrètes pour régler le sort au capitalisme ? Il y a écrit pour le capitalisme, mais je vois pas trop ce que ça veut dire. Parce que je pense pas qu'on ait des solutions pour le sauver. Enfin, c'est peut-être pas le but de le sauver, ce serait plutôt d'en finir. Mais bon, des solutions concrètes, moi j'en ai pas. Peut-être que l'un d'entre vous en a. Non,
on peut parler de la refondation du capitalisme. Alors, la réponse que nos amis au pouvoir aujourd'hui ont donné à l'occasion du G20. Et puis.
Non, sur les solutions concrètes, évidemment, on va pas en avoir, mais puisqu'on évoquait tout à l'heure la proposition de Frédéric Lordon là, de gel de la rémunération servie aux actionnaires, notre travail, c'est peut-être de s'employer à ce que ces revendications trouvent des relais politiques. Parce que nous, on peut faire des propositions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, on va dire, il faudrait faire ceci, et puis il faudrait faire cela, et puis on peut avoir des tas de gens intelligents qui expliqueront pourquoi il faudrait faire ceci et pourquoi il faudrait faire cela. Parce que le discours sur quelle proposition faites-vous est un discours qui, à la longue, est très fatigant. Il ne s'agit pas de faire des propositions. C'est pas que les propositions n'ont pas été faites, je veux dire. Depuis 20 ans, les propositions, il y en a eu à droite, à gauche, sans parler de la taxe Tobin qu'on évoquait tout à l'heure, le SLAM, on peut vous en donner des catalogues entiers de propositions. Mais il y a un moment où il faut que ces propositions soient relayées par des forces politiques et pas uniquement par une conscience individuelle de quelqu'un qui trouverait que c'est pas mal. Il faut qu'il y ait une organisation collective, il faut qu'il y ait des structures collectives, il faut qu'on fasse pression auprès de ceux qui ont les moyens de transformer ces propositions en réalisation. Et je constate que la plupart des choses qu'on évoque n'ont absolument aucun relais politique, que la vie politique évolue complètement en dehors de ça, pour savoir si ça va être l'une plutôt que l'autre qui sera candidate, à condition que le résultat fait l'année prochaine lui permette d'utiliser ça comme une rampe de lancement, alors qu'elle serait en quelque sorte la peau de banane pour le concurrent ou la concurrente. On a quand même une vie politique qui est extraordinairement pauvre, qui est extraordinairement pauvre et qui est extraordinairement déconnectée des propositions qui existent mais qui ne trouvent aucun relais. Quelles sont les organisations politiques qui utilisent en quelque sorte l'occasion qu'elles ont de s'exprimer pour insister sur ces propositions? Il y en a peut-être quelques-unes, mais on a un jeu politique qui est verrouillé par des forces qui représentent 80 ou 90% des suffrages, qui sont complètement en dehors de ça.
Et qui sont prises au piège du discours que si elles font ces propositions-là, on va les taxer d'archaïsme, de pas sérieux, etc. Donc comme le PS est tombé dans ce piège-là il y a longtemps, et qu'il s'est refusé de parler autrement que par le social-libéralisme, il s'est pris au piège de la sémantique, et surtout, faut pas en sortir, sinon on est ridicule, on va passer pour des trotskars, on va passer pour des communistes, on va passer pour des gens à qui on peut pas accorder une confiance quelconque.
Non, c'est pour ça que je vous ai repris, parce que le discours sur les propositions, on répond pas. Et puis après, vous avez les gens qui, à la fin de l'émission, disent vous avez vu, ils n'ont pas de proposition. Et alors, effectivement, quand après on leur a demandé ce qu'ils pensaient de Sarkozy, ils ont tapé sur Sarkozy, mais on les a vus. Propositions, ils sont secs. On en a plein. Elles ont été documentées, elles ont été détaillées, elles sont testées. Après, il faut la volonté politique de les mettre en œuvre.
C'était pour reprendre la manipulation médiatique, c'est là où je voulais venir. Je ne sais pas, Pierre Consaldi, peut-être, je ne sais pas, ça vous était arrivé, vous avez répondu à les interviews, vous avez lu des articles, écouté la radio, la télévision, ce traitement médiatique, je ne sais pas, ça, vous en pensez quoi
Sur la crise, donc.
Sur la crise, le non-traitement, en fait, c'est-à-dire l'évitement, le traitement par l'évitement.
Je crois que, je ne sais pas si vous voulez en parler ou pas, mais je crois que le G20 a été une magnifique mise en scène. De ce point de vue-là, ça a été parfait. On en parlait un peu tout à l'heure. L'exemple le plus extraordinaire, c'est la mascarade sur les paradis fiscaux. Deux jours avant, on va vous supprimer les paradis fiscaux. Alors, dans la liste de l'OCDE publiée initialement il y a quelques années, il y en avait 80. Dans la liste pré-G20, il en restait 4. Et puis le lendemain, par miracle, on n'avait plus aucun paradis fiscal sur Terre. Vraiment, je pense que personne n'a marché dans la combine, mais quand même, c'était ça qu'on a voulu faire passer. C'est nous, maîtres ou pas maîtres du monde, nous sommes en mesure d'éradiquer les paradis fiscaux. Et derrière ça, il y a une autre lecture de la crise qui est beaucoup passée dans les médias, qui reste quand même très présente, je pense. C'est finalement... la crise, c'est un dysfonctionnement, certes très important, mais c'est un dysfonctionnement. Les mêmes qui prenaient la dérégulation disent aujourd'hui qu'il faut un peu plus réguler, mais on s'en tient à ce discours-là sur rassurez-vous, nous gouvernants, nous sommes là, nous allons remettre un peu de régulation dans cette machine un peu folle.
D'accord. Mais c'est pas les conséquences du système, c'est un petit excès. On a mal envoyé.
À la limite, on a mal réglé. Évidemment, ça se chiffre en quelques minutes. Milliers de milliards, et ça va faire beaucoup de chômeurs et encore un peu plus de pauvres. Mais c'est. Alors qu'encore une fois, je pense qu'il faut revenir aux racines de la crise pour comprendre. Donc, quand on est dans ce discours-là, si le pouvoir politique affiche un certain nombre de mesures, il prétend avoir répondu à la crise, alors qu'il n'y répond pas du tout.
C'est du vent.
C'est purement cosmétique,
Et il y a aussi une chose qui me paraît importante dans cet ordre d'esprit, c'est que les mesures qui ont provoqué la crise, pour la plupart, elles n'ont jamais été l'objet d'un arbitrage politique, démocratique, elles n'ont jamais été proposées lors d'élections. On dit aux gens, vous avez ça, mais vous avez voté pour des libéraux, donc vous deviez savoir que ça allait arriver. Quand vous avez eu quelqu'un qui a fait campagne, est-ce que Chirac a fait campagne ou est-ce que Clinton a fait campagne sur le thème, il faut qu'on cesse de distinguer banque d'affaires et banque de dépôt. Mais jamais. C'est des questions qui ne sont jamais soumises à l'arbitrage des citoyens. Et c'est là quand même que parfois le suffrage universel s'apparente à une imposture, parce que ces questions-là, qui sont des questions majeures, ne sont pas l'objet du débat. L'objet du débat, c'est mais qu'est-ce qu'on va faire si les pédophiles errent en liberté, etc., à la sortie des écoles. Et là, vous avez des débats qui n'en finissent plus sur ce thème. Est-ce qu'il faut faire la castration chimique ou pas, etc. Vous avez des plateaux chez Yves Calvi et chez les autres autour de ces... Mais vous avez beaucoup de choses sur distinguer banque d'affaires, banque de dépôt.
Non,
bon,
j'en ai pas vu. Non.
Et même question que je me pose, qui a été posée par un universitaire américain, à propos des médias. Et c'est une question qui m'a paru assez provocatrice. Il disait, quand au juste a-t-on demandé aux citoyens s'ils souhaitaient que les moyens d'information et de communication soient détenus par les plus grandes multinationales de la planète ? Qui leur a dit, voilà, il faut que les grands moyens d'information et de communication soient détenus par les multinationales de la planète ? Et les gens ont voté oui. Quand ce vote est-il intervenu en France ? C'est Chirac qui l'a proposé, c'est Mitterrand, c'est Balladur, quand ? Jamais. Ce sont des choses qui se font un peu naturellement, et puis après on les présente avec la force de l'évidence en disant c'est le système, il est comme ça et on n'y peut rien. Mais il faut bien voir que ce sont des arbitrages qui n'ont aucune légitimité démocratique, qui ne peuvent pas se prévaloir d'un arbitrage électoral quelconque. Et d'ailleurs, quand on étudie la révolution conservatrice des 30 dernières années, ce que j'ai un peu fait, ce qui est frappant, c'est que dans la plupart des cas, les élections ont été remportées par des gens de droite sans qu'ils abordent de front les questions économiques et financières. Bush, quand il a été réélu en 2004, c'était quoi les grands thèmes de sa campagne ? C'était l'hostilité au mariage homosexuel, la lutte contre le terrorisme à la suite du 11 septembre. C'était ça les grandes propositions, les grands thèmes de sa campagne.
La peur, la violence.
Voilà. Bon. Et avant, avec Thatcher en 1983, c'était le nationalisme et la guerre des Malouines. Et avec Chirac en 95, c'était justement la fracture sociale et ainsi de suite, etc. Vous avez très peu de gens de droite ou de gauche, mais qui appliqueront après des politiques néolibérales, qui se présentent sur la base de ces politiques néolibérales. Et quand il y a des gens qui le font, c'est Alain Madelin en 1995, 3,91% des voix. Lui, on ne peut pas lui reprocher d'avoir dissimulé la couleur. Mais vous avez donc des candidats de droite ou de gauche qui se présentent en parlant d'autres choses, de sujets relativement subalternes, que ce soit le désordre, l'insécurité, etc., avec des mesures parfaitement démagogiques, qui après arrivent à obtenir en quelque sorte un vote par défaut, parce qu'en face il n'y a pas de proposition qui évoque la question des banques d'affaires, des banques de dépôt. Et d'ailleurs, ce serait trop compliqué. Et d'ailleurs, avec le système des médias, on n'a pas le temps. Et d'ailleurs, au bout d'une minute trente, il faut passer à la question suivante, etc. Et puis après, qu'ils vous disent, on a un mandat. On a un mandat pour mener notre politique. Mais dans le cas de Sarkozy, dans le cas de Chirac, dans le cas de Reagan, dans le cas de Bush, la plupart des mesures importantes, je ne dis pas symboliques, des mesures importantes qu'ils ont prises, ils les ont prises sans avoir aucun mandat politique. Uniquement parce qu'ils avaient été élus et puisqu'ils avaient un certain nombre de parlementaires, plus ou moins à leur dévotion, qui votaient assez docilement tout ce qu'on leur proposait, souvent sans le comprendre eux-mêmes. Puisque, comme le disait Pierre Consaldi tout à l'heure pour les produits financiers, il y a même des banquiers qui étaient incapables de les comprendre, les produits financiers. Les produits titrisés qu'ils proposaient à leurs clients, parfois il fallait des catalogues de 80 pages pour les comprendre. Donc on faisait pas campagne là-dessus. Et ce sont ces réformes-là qui ont provoqué des situations économiques et sociales qui sont celles que nous connaissons à l'heure actuelle.
Parce que c'est trop compliqué. Les gens ne peuvent pas comprendre.
Donc
on va leur parler de choses simples.
Et puis parce que dans un journal télévisé, on a une demi-heure, il faut faire 28 sujets, il faut commencer par le dernier fait divers, les pédophiles, l'accident de voiture, le train, la neige,
les drogués, la prostitution.
Voilà, et tout ça, etc. Donc vous avez très peu de temps. Et d'ailleurs, c'est trop compliqué, ça n'intéresse pas les Français, etc. Vous faites venir des experts qui sont en général toujours les mêmes et à qui on dit de parler 15 secondes, enfin qui font les beaux dans leur bureau, qui nettoient leur bureau. C'est d'ailleurs très drôle de regarder. Des journaux télévisés. Ils nettoient leur bureau, il n'y a rien dans leur bureau. On se dit, mais moi, il m'est arrivé de travailler quand même, comme la plupart d'entre nous. C'est jamais aussi net que ça, un bureau. Il n'y a rien dans leur bureau. Leurs bouquins sont merveilleusement rangés, avec en général en premier plan leur dernier livre. Il y en a un rayonnage entier. Ils sont devant leur ordinateur à tapoter quelque chose. On a l'impression qu'ils ont été surpris par la caméra. Et moi, ça m'est arrivé de faire ça. Je sais comment ça se passe. Vous y passez trois heures parce que le plan est pas bon, etc. Donc cette fausse spontanéité était très travaillée. Tout ça pour avoir 10 secondes. Pour avoir 10 secondes qui vont évidemment servir à entériner le point de vue du journaliste, en quelque sorte, avec l'aval de l'expert. Ah ben, vous auriez tout à l'heure, à propos de l'inflation, quelqu'un, justement, Pierre Consalier aurait dit, ben, l'inflation, c'est une augmentation généralisée des salaires. Bon, il aurait dit ça, très bien, il n'aurait pas dit davantage. Et puis après, vous auriez eu une explication avec des graphiques qui vous disaient que la politique de Nicolas Sarkozy était la seule qui permettait d'endiguer la résurgence de l'inflation. Voilà.
Pierre Consalier dit, pour ou contre la castration chimique? Je plaisante. Je vais passer le micro à Lulu qui va
des questions. C'est ça, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle toujours des effets, mais jamais des causes, pour résumer, hein, économiquement.
C'est une très bonne définition. Voilà. C'est des effets sans cause. Voilà. Et parce que, évidemment, si on parlait des causes, oui, on devrait mettre en cause un certain nombre de responsabilités, oui, qui ne sont pas seulement la responsabilité des politiques, mais aussi la responsabilité d'un certain nombre de journalistes qui ont véhiculé les interprétations des politiques.
C'est d'ailleurs assez surprenant de voir qu'au G20, c'est pas les banquiers, bien que ça soit une crise qu'on dit bancaire et financière, c'est pas les banquiers qui sont venus présenter leurs excuses, je crois, au contraire.
Ségolène Royal?
Oui, c'est vrai, c'est pour tous les autres cas.
Vas-y, tu veux... dans les questions, j'ai contre le dumping social, délocalisation, le retour au protectionnisme serait-il une issue?
La question du protectionnisme, effectivement, elle est revenue dans le débat public. Je pense que c'est pas une bonne façon de poser la question. Protectionnisme, enfin, il se pose, enfin, tel qu'il est posé. Alors, je sais bien que c'est des mots qui peuvent être très trompeurs, ou en tout cas, les idées peuvent être un peu pipées dans ce débat. Mais tel qu'il est posé par un certain nombre de personnes, la question se pose au niveau de l'Union européenne. Hein, grosso modo, pour essayer quand même d'empêcher un certain nombre de pays, les nouveaux entrants dans l'Union européenne, contrecarrer un peu leur développement. Je pense que c'est pas comme ça qu'on peut répondre à la question. C'est le protectionnisme en soi n'apportera rien. Enfin, ne peut rien apporter. Encore une fois, ce qu'il faut en revanche essayer de construire, c'est des politiques qui permettent des convergences par le haut. Bon. Et là, on a un cadre, pour une fois, quand même, l'Union européenne, 27 pays, avec des différences, quand même, de niveau de vie, de salaire assez importantes. Bah, voilà, un beau terrain de, non pas d'expérimentation, mais de mise en œuvre d'une stratégie de convergence qui ne laisse personne. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en œuvre au niveau de l'Union européenne. Si on commence à avoir des mesures protectionnistes, d'abord, on sait très bien que ça fait un peu boule de neige, c'est-à-dire que bon, on risque d'avoir des retours de bâton plus forts que ce qu'on escompte comme avantage. Donc, à mon avis, même d'un strict point de vue, pas technique, mais enfin, des effets économiques et sociaux, à mon avis, c'est même pas une bonne mesure. En revanche, la vraie question, c'est comment on arrive, comment construire au niveau de l'Union européenne cette convergence avec des pays qui partent de niveaux effectivement très différents.
Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont défendu cette thèse du protectionnisme, en particulier Jacques Sapir, qui l'a fait dans le monde diplomatique, d'ailleurs dans le numéro du mois de mars, je crois, et Emmanuel Todd, mais il y en a d'autres, qui ont évoqué un protectionnisme à l'échelle européenne, qui n'ont jamais proposé des mesures, des contingentements douaniers limités à la France. Et moi, j'ai été assez plutôt convaincu par leur argumentation. Je suis convaincu que qui veut la fin veut les moyens, que vous ne pouvez pas à la fois dénoncer très justement ou analyser très justement les conséquences du libre-échange généralisé et ne pas envisager des moyens qui mettraient en cause ce libre-échange généralisé. Alors effectivement, il faut le faire d'abord, il faut le faire à l'échelle européenne, ce qui pose toutes sortes de problèmes parce que même à l'échelle européenne, il y a d'énormes disparités salariales, mais il faut à un moment proposer des méthodes d'action politique qui permettent de résoudre les problèmes qu'on pose, parce que sinon, on ne peut que nourrir le découragement des uns et des autres. Et il m'a semblé que la démonstration que faisait Jacques Sapir était une démonstration convaincante.
Pour que les auditeurs simplement comprennent en fait ce qui fait clivage dans ce débat-là, c'est le diagnostic. C'est effectivement le diagnostic de Jacques Sapir, notamment, c'est de dire ce qui est la source quand même de nos difficultés, de la plupart de nos difficultés, c'est le libre-échange généralisé. Or, moi je fais partie de... Enfin, je lis aussi, mais et d'autres choses, et je suis plus convaincu par les arguments d'autres économistes qui pensent que effectivement, on peut y avoir des conséquences néfastes dans le libre-échange généralisé, mais c'est pas le phénomène majeur qui permet d'expliquer, de rendre compte des difficultés. Donc voilà, le point de clivage, à mon avis, il passe sur ce diagnostic. Et moi, encore une fois, je suis davantage convaincu par les gens qui montrent que non, c'est quand on regarde sur la longue période, c'est pas ça qui a fait, c'est pas corrélé, disons, il n'y a pas de lien mécanique entre le développement du libre-échange et les crises économiques ou financières. Voilà. Mais ça fait encore débat dans le monde.
C'est un débat
logique en plus qui vient se greffer dessus par rapport au libre-échange et le transport des matières à l'autre bout de la planète.
Disons que c'est un débat très très riche où justement ces arguments ont été échangés un certain nombre de fois. Et Jacques Sapir disait que le libre-échange n'était pas l'explication exclusive de la baisse des salaires, mais que ça avait offert une marge de manœuvre considérable précisément aux patrons, aux actionnaires, comme vous le disiez tout à l'heure, qui était si on ne fait pas ceci, alors ça va être d'autres qui le feront pour beaucoup moins cher, donc acceptez le gel de vos salaires ou acceptez la déflation salariale là où vous vous trouvez. Ils ont utilisé la possibilité justement ouverte par la mondialisation pour faire pression sur les salaires. Ça ne veut pas dire que s'il n'avait pas eu la mondialisation, il n'aurait pas eu envie de faire pression sur les salaires, parce que dans l'histoire des rapports sociaux entre ouvriers et patronat, effectivement, les détenteurs de capital ont toujours envie de réduire autant que possible les salaires qu'ils versent à leurs employés ou à leurs ouvriers. Mais il estimait, et je crois que c'est juste, que depuis une vingtaine d'années ou depuis une trentaine d'années, la mondialisation avait été un formidable instrument de démobilisation des classes ouvrières des pays occidentaux, à qui on faisait justement, on suggérait la menace de perdre leur emploi si elles n'acceptaient pas des conditions toujours plus dégradées.
Non mais... Bon, on va peut-être s'arrêter, mais juste pour rappeler ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça ne fonctionne pas vraiment à l'échelle mondiale, parce que, encore une fois, en Chine, qui est peut-être le pays qui a le plus bénéficié du libre-échange, la part des salaires, elle a baissé aussi. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça, je crois, pour comprendre ce qui est à la racine. Je ne dis pas que je veux la réponse, mais je dis simplement les éléments un peu factuels qu'on a pour analyser ça, laissent beaucoup de marge pour
l'interprétation,
comme on peut le voir dans notre débat. Voilà.
Bien. On va peut-être passer une minute.
Ah bah oui, hein, oui, tout à fait.
On va bientôt s'arrêter aussi, puisqu'il est bientôt 11h.
Il est bientôt 11h, mais on va faire une petite synthèse. Voilà. On a déjà parlé des solutions éventuelles.
Du fait que les solutions passent à la trappe, surtout.
Oui, et puis que les politiques ne prennent pas le relais. Ça ne
les intéresse pas, les solutions.
Voilà. Ça, c'était en 1975, je crois, si mes souvenirs sont bons, parce que j'étais déjà né à l'époque.
Oh, tu étais très jeune.
Oui.
J'ai trois invités. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur.
Ah oui.
Humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux.
Laïra, laïra.
Merci patron,
quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux.
ici-bas. Un jour Dieu vous le rendra.
Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah, 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 ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
Like la, like la, yeah. Merci patron.
Pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Ah, 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 ah oui.
Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron.
Light, 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 yeah.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
À vous le plaisir de travailler pour nous.
Heureux comme un fou.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Ce que vous avez fait pour nous,
nous le referons pour vous.
Light, light, light,
light. Mon patron est plus grand que le tien.
Ouais, mais il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.
Oui, vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire, malgré certaines musiques. Voilà. Nous sommes à nouvelle antenne, je dis ça pour, voilà. Parce qu'on continue la discussion.
Oui, parce que il y a plein de trucs qu'on aurait pu demander. Moi, je sais pas, parce que quand j'étais petit, parce que je suis jeune aussi, comme toi, professeur.
Oui.
Je me rappelle que le prix du pain, par exemple, il était fixé par l'État, que le prix du lait était fixé par l'État.
Le prix de l'essence aussi.
Que le prix de l'essence était fixé par l'État. Et que le loyer était fixé, enfin, que le prix du mètre carré était indexé en fonction, je crois, du loyer, du salaire minimum,
voilà,
etc. Et qu'en fonction des quartiers, c'était plus ou moins élevé, mais que
le guide suprême de la pensée marxiste-léniniste, c'était Pompidou.
D'accord. Et feu Pompidou. c'était pas prévu, mais est-ce qu'on peut revenir à ce genre de choses enfin, peut-être pas avec les politiques qu'on a actuellement, mais est-ce que ça pourrait être utile de remettre un contrôle des prix des matières essentielles à l'existence?
Est-ce qu'on peut revenir à la réglementation, en fait, le contrôle dont on parlait tout à l'heure?
Oui, je pense qu'il y a quand même, dans la question du pouvoir d'achat, on en parle peu, je pense, mais enfin, c'est quand même bien présent dans les esprits, mais c'est pas très médiatisé, justement, je crois. Je pense qu'il y a une dimension tout à fait majeure aujourd'hui dans la question du pouvoir d'achat, c'est celle du logement. Et s'il y a bien quelque chose à faire en termes d'action publique, de régulation, de contrôle, de gel des loyers, c'est sur le logement. Bon, d'ailleurs, le mouvement qu'il y a eu en Guadeloupe, hein, je rappelle qu'il y a très temporairement, malheureusement, c'est pour l'année 2009 et après on ne sait pas ce qui va se passer, mais quand même des mesures de gel des loyers. Il y a un volet logement qui n'est pas négligeable et qui, parce que je crois, c'est un domaine dans lequel il faudrait, je pense, en tout cas, envisager ce genre de choses. C'est là parce que ça devient impossible de se loger et contrairement aux amis américains, on peut pas non plus acheter quoi. Donc
c'est encore trop cher.
On peut même pas acheter ni louer.
Et alors, juste une parenthèse par rapport à la Guadeloupe, c'est qu'il faut aussi se rappeler qu'il y a eu des accords qui ont été faits sur certains produits pour qu'il y ait des baisses de prix sur l'alimentation essentielle, etc. Et que ces marques-là ou ces produits-là ont eu tendance à disparaître très vite des rayonnages. Dommage. Donc, pour acheter les autres.
C'est
un facteur de malchance, je pense, problème d'approvisionnement. C'est ce qu'on leur dit, bien entendu. Donc, c'est que non seulement après une lutte, après des accords, enfin, faut bien faire gaffe aux accords que l'on écrit, parce que si on donne une marque ou quoi que ce soit, ce sera la marque qui va disparaître, mais le produit, lui, il sera toujours vendu.
Au départ, c'était pas la revendication.
Hein, ça rentrait pas dedans, mais
ça s'est traduit par ça, effectivement.
Tenu, on leur retire immédiatement après,
voilà,
par le biais de toujours les manœuvres les plus basses et médiocres qu'utilisent les multinationales et autres.
Voilà. Vous voulez que je réponde à la question qu'on m'a, parce qu'on m'a soumis une question là, que je lis, n'est-ce pas s'avouer vaincu que de dire que les médias empêchent tout travail politique? Alors, Saint-Jalimi, deux choses. D'une part, je ne dis pas que les médias empêchent tout travail politique. Je dis que les médias font un travail politique permanent. C'est ce que Bourdieu, que je citerai encore une fois, appelait un travail, une politique de dépolitisation. Donc, présenter les problèmes qui se présentent comme produits par une sorte de fatalité contre laquelle on ne peut rien faire et qui d'ailleurs ne nous concerne pas, qui relève d'experts et de gens infiniment plus intelligents que nous. Donc les médias font un travail politique. Est-ce qu'on ne peut rien faire ? Bien sûr que non, on peut faire quelque chose, et on ne s'avoue pas vaincu. D'ailleurs, si on s'avouait vaincu, on ne serait pas là ce soir à vous en parler. Et on s'avoue d'autant moins vaincu qu'on sait que les médias n'ont pas le monopole de l'information. Ça, c'est une illusion de journalistes. Les journalistes ont l'impression que s'ils ne disent pas quelque chose, personne ne le saura. Et que s'ils disent quelque chose dans un certain sens, tout le monde marchera en quelque sorte au garde à vous.
Votez oui.
Bon, on a eu voté oui, comme vous dites. En 2005, on a vu que ça ne se passait pas comme ça. Et 13 ans plus tôt, il y avait eu le référendum de Maastricht, où on avait eu une expérience identique de matraquage propagandiste, et où les Français avaient presque voté. Non, ils avaient voté oui, 51%. Bon, et puis après, ils ont voté non à 55%. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, alors que les médias n'avaient pas changé ? Mais entre-temps, il y a eu 13 ans d'expérience de ce qu'était l'Europe libérale. Et le discours des médias sur l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est l'amour, l'Europe, c'est Erasmus, etc., etc. Bon, les gens en avaient fait l'expérience, ils en avaient fait le tour. Ils avaient donc eu une information qui n'était pas l'information des médias, mais qui était l'information de leurs propres conditions d'existence. L'information des discussions qu'ils pouvaient avoir dans leur syndicat, avec leurs amis, etc. Et les journalistes, souvent, oublient complètement cela. Ils ont l'impression que l'information doit passer par eux et ne peut passer que par eux. Et évidemment, toute l'histoire des sociétés humaines montre que ceux qui détiennent le monopole des moyens d'information, eh bien, il leur arrive quand même de perdre le pouvoir parce qu'il y a une autre information dissidente, subversive qui est passée ailleurs et qui l'a emportée. Donc, pour résumer ma réponse à la question, je ne m'avoue pas du tout vaincu.
Alors, ils ont tendance aussi à penser que seule l'information qui est donnée par eux est valable et digne de confiance, elle peut être créditée, alors que toutes celles qu'on peut obtenir par un tiers, par Internet, encore un peu libre, sur les réseaux un peu libres.
Oui, et puis j'ajoute
il faut avoir beaucoup de précautions et de cautions, ce qui n'est pas faux non plus.
J'ajoute qu'il y a même quelques journaux écrits qui développent des thèses un peu en rupture avec l'ordre dominant. Bon, j'en citerai pas de très nombreux ici, mais il nous est arrivé d'y participer, d'en créer, qu'il s'agisse de PLPL, qu'il s'agisse du Plan B. Bon, il y a le monde diplomatique, évidemment, il y a des sites d'information, il y a Ciné Hebdo, il y a Crimed, enfin, il y a ces moyens, en quelque sorte. Il y a ces moyens,
attention.
Il y a ces moyens d'information un peu critiques qui existent, mais qui n'auraient d'impact, à mon avis, non d'impact que parce qu'ils sont relayés par l'expérience quotidienne des gens et qui parfois est une expérience qui a beaucoup plus de poids que le discours de toutes les propagandes.
Pierre Conchaldi.
Je partage tout à fait ça. Je pense que, mais je ne suis pas du tout un spécialiste des médias, mais je pense qu'effectivement, dans les mouvements sociaux, en tout cas, même parfois parmi des gens qui sont tout à fait à gauche, ou peut-être même à gauche, dans la gauche de gauche, il y a une sous-estimation de cette réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas constamment bourrer le mot des gens parce qu'ils vivent des situations qui ne sont pas celles-ci. L'exemple du chômage, on nous sort un taux de chômage de 8, 9, 10, qu'on traficote dans tous les sens, je passe sur les détails, d'abord ça c'est un taux de chômage instantané, il faut savoir que j'ai bonne mémoire, deux fois plus de personnes qui font l'expérience du chômage.
Ça c'est ce que j'ai vu dans ce cas. En fait,
évidemment,
je suis à la bonne page, j'avais prévu le coup. C'est qu'en fait sur la rotation, ça va jusqu'à 2006 à peu près, je crois au chiffre, c'est que il y a une rotation environ, il y aurait 11 millions sur 10 ans de Français qui seraient passés.
Sur 10 ans, voilà.
Je prends les chiffres sur 10 ans, jusqu'à 22 millions sont passés, 22 millions de personnes sont passées par le chômage, sur les 10 ans. 22 millions.
Oui, alors après, il faut rapporter ça à la population qui a été sur le marché du travail.
Oui, sur la, mais c'est active, énorme, la population active.
Mais c'est juste pour illustrer le fait que...
C'est-à-dire que le chômage, ça ne touche pas une toute petite catégorie.
C'est pas parce qu'on bouge le curseur du chômage d'un point que ça bouleverse l'expérience que les gens ont de cette réalité. Parce que non seulement ils font l'expérience du chômage beaucoup plus que ces 2 millions et demi qui sont déjà beaucoup, mais en plus, bon, ils ont quand même des amis, des copains, des parents.
Ils sont pris en compte que ceux qui sont indemnisés en plus. Ils ne sont pris en compte que ceux qui sont indemnisés. Je parlais pour les chiffres qu'on nous annonce sur les 2% ou les 3%, ou les 2 millions de chômeurs. Je crois
que c'est un peu plus
compliqué que ça, d'accord.
Ça m'attend, mais bon.
On ne rentre pas dans les détails.
Non, mais je pense que je prends cet exemple parce que c'est. Bon, encore une fois, je pense que ça illustre le fait que on a tendance, je pense, à sous-estimer l'expérience que les gens... Sur le pouvoir d'achat, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il suffit de discuter, de voir à quel point les difficultés que connaissent les gens d'aller à sa supérette, si on y va. Je pense qu'il y a beaucoup de signes qui montrent que... Et ça, effectivement, je pense que le journaliste des médias typiques, je veux dire, des médias audiovisuels, je pense que c'est quand même le summum, en quelque sorte. Là, on est dans un autre monde, c'est-à-dire qu'on projette effectivement une réalité qui est assez souvent déconnectée de ce que pensent les gens.
Ouais, on essaie de faire accepter quelque chose qui n'existe pas, en fait, de leur faire accepter un monde comme on aimerait qu'il soit, et il faut accepter ça. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça.
Je pense qu'il y a souvent des manœuvres de diversion quand on défile franchement ce qu'on nous balance aux journaux télévisés. Le peu de fois que ça m'arrive de regarder, mais je me dis où est l'information, quoi, parce que
à la fin,
le summum, ça a été évidemment le crash de l'Airbus, où là on nous passait en boucle. La seule idée qu'on avait, c'était qu'on ne savait rien.
C'est extraordinaire comme traitement médiatique
d'une information.
Nous ne savons rien.
Mais donc, ça permet évidemment de ne pas parler du pouvoir d'achat, des difficultés de logement, des difficultés de l'emploi, de la précarité. Voilà, c'est simplement un masque par rapport à ça.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'écrire parfois que vous étiez pour la pauvreté et pour la tuberculose?
Pour la pauvreté.
Et pour la tuberculose. C'est un peu le fondement des informations que l'on reçoit parfois, c'est-à-dire des déclarations du
consensuel,
genre.
Consensuel, quoi.
Consensuel, effectivement. Parce qu'on ne va pas dire le contraire, mais ce n'est pas de l'info. C'est simplement une opinion. Intoxiquée. Voilà.
Juste peut-être une remarque supplémentaire. Je crois que. Le corollaire de la sous-estimation de l'information qui passe hors médias, c'est que beaucoup de gens surestiment la nécessité d'aller dans les grands médias pour faire passer son message. C'est parce que...
Oui, c'est quoi, vous attelez d'ailleurs.
Oui, c'est cette idée, il faut absolument qu'on aille chez Yves Calvi dans les débats de Moati, machin, etc. Sinon, personne ne saura ce qu'on défend. Mais si vous allez dans ces émissions-là, personne ne saura ce que vous défendez de toute façon. Et la seule chose que vous aurez, accomplie, c'est de donner un crédit particulier aux animateurs de ces émissions, qui pourront après se prévaloir d'avoir fait venir X ou Y ou Z, qui eux sont des critiques, vous voyez, ils sont venus, donc mon émission est démocratique. Et vous n'aurez pas fait passer votre message et vous aurez légitimé un système d'information dont l'objectif principal est que votre message ne passe pas et que le message des autres soit diffusé en permanence avec le temps dont il a besoin pour percuter sa cible.
Oui, d'ailleurs, Monsieur Delarue, grand animateur de télévision, avait souhaité inviter des vrais anarchistes à son antenne.
D'accord.
Voilà.
Et on n'y est pas allé, Marie-Anne.
Nous n'y sommes pas allés.
Bon, Alain Marc a dû se présenter.
Mais on parlait des. Je voudrais juste parler d'un petit quelque chose. Justement, l'éducation politique et les médias, peut-être un peu, qui sont pas les masses médias, justement, il y a pas mal de phénomènes d'éducation populaire aujourd'hui qui se font jour. Enfin, on l'a vu avec Michel Onfray, on le voit aussi. On en fait la publicité quand même souvent avec l'université populaire qui fait déjà des petits à Montreuil.
Absolument.
Donc il y a effectivement des sources d'informations complètement autres, hein, même, je dirais, dans ces cas-là, que les grands médias.
Oui, mais j'ai cité justement le plan B.
Oui, oui, non, mais voilà, c'est des journaux, mais l'éducation.
Après, vous citez ce bouquin. Dans l'éducation populaire, à ce moment-là, il faut citer Attac, puisque c'est défini quand même comme un mouvement d'éducation populaire.
Comme c'est une initiative que Radio Libertaire soutient, je me permets de faire un peu de copinage.
Vous vouliez que tout le monde vous emboîte le pas. Ça n'a pas marché.
On va encore écouter une petite musique et on va conclure tout de suite après.
Tout de suite après la musique.
Vous avez encore la possibilité de nous appeler.
Mais pas pour des questions, parce que.
Au 01 43 71 89 40. Non, pour des remarques ou si on a oublié quelque chose, après tout.
Félicitations, si on aime bien.
En tout cas, merci.
Merci aux insultes, David.
Merci aux nombreux auditeurs qui ont appelé. Oui, je veux dire, le standard qui ne comporte que 3 postes, quand même, il faut le dire, était saturé pratiquement à chaque fois. Je dis ça parce qu'il faut rétablir quelquefois la réalité. Voilà, on va écouter.
Un mythe qui s'écroule.
On va écouter un morceau choisi par Marie-Jeanne, qui est. Non, c'est quelque chose que je partage.
Ce sera pas Guy Denis.
Non plus.
C'est Marianne.
Marianne
Faithfull.
Ah, voilà. Alors là, c'est fédérateur.
Ah.
Oui.
Je suis amoureux personnellement.
Sliding through life on charm.
Radio Libertaire 89.4, c'est Marianne Faithfull. Donc, cette émission spéciale autour de la crise et de ses prolongements de pieuvre va s'achever.
Oui, parce qu'il est tard.
Hein, il est tard. Voilà.
Mais la discussion est passionnante.
La discussion continue, hein, de toute façon.
Entre nous. Ah oui, d'accord. Après, peut-être, je sais pas. Mais
on verra.
En tout cas, on va citer tout le monde et puis on va se dire au revoir, à moins que des choses que j'ai complètement oubliées.
Encore eu beaucoup d'appels, d'après ce que j'ai compris, mais ils sont encore en train de noter.
Ah, parce qu'il y a des questions. On avait dit qu'on arrêtait les questions.
Non,
mais c'est uniquement des félicitations.
C'est pour avoir les félicitations tout de suite, ou on attend encore un peu qu'ils soient correctement.
C'est l'applaudimètre version téléphonée.
En fait, ça passe par le bureau de la censure, et puis après ça.
Voilà, si on veut refaire une émission spéciale, il faut qu'il y ait quand même un haut level, puisque nous, on n'a pas de mesure de maîtrise. Alors, c'était l'émission spéciale de Radio Libertaire, donc la Fédération Anarchiste 89.4. C'était animé par la Pente du Carmel, donc Frère Oxyde, le professeur du pont d'usine à technique, lui,
merci.
Téléphone, micro, question, Marie-Jeanne, pareil, Frère Oxyde, j'ai dit.
Cédric Delatrique au micro, voilà. Au micro aussi.
On va rappeler justement la bibliographie, en invité, Pierre Contialdi.
Ce sont des carmélites.
Voilà. On va rappeler un petit peu, Cédric, tu vas m'aider un petit peu, la bibliographie. Et dans les livres qu'on peut trouver de Pierre Concialdi et de Serge Halimi.
Je pense que Pierre Concialdi le fera lui-même.
Lui-même,
parce qu'il a une bibliographie assez impressionnante.
Oui. Il n'est pas si facile que ça à trouver. Hein,
Il n'y en a même pas beaucoup à Publico, si je puis me permettre.
C'est juste, on nous écoute à Publico, donc c'était juste pour leur faire un petit message. Une question, Pierre Concialdi, en direct. Non ? C'est une remarque.
C'est une lectrice, je vous lis, hein, parce que c'est court. C'est donc une lectrice de Ciné Hebdo, bonne lecture. Mmh. Et si vous dites l'illégitimité du gouvernement, regarde les 60% d'inflation sur le calcul de Ciné Hebdo, bah oui, c'est moi qui fais l'article. c'est facile, c'est donc calculé en fonction des inscrits, quoi. Effectivement, quand on rapporte les suffrages exprimés aux inscrits, ça fait quand même tout tirer kiki.
Enfin, les invités qui demandent à vos amis d'appeler, ils l'ont déjà fait.
Hein. On peut peut-être parler du sujet prédominant du ciné hebdo de demain. À moins que ça soit succès.
Non, la couverture.
Oui.
La couverture. Est-ce que je peux déflorer la couverture? C'est compliqué.
C'est difficile, c'est un secret presque industriel.
Alors je peux vous donner quand même quelques indices.
Oui.
Ça fait référence à une actualité juridique.
D'accord, donc c'est
tic-tic-tic. Là, vous avez 30 secondes pour
ça
trouver.
Fichier de vie.
C'est une de l'actualité. Oui, alors, judiciaire, pardon. Pas
judiciaire.
Il y a un rapport avec la congélation.
Voilà.
Heureusement, il y a Phallus.
C'était ça ou la scientologie.
Non, ça, c'était
activité judiciaire.
Heureusement, il y a l'anus.
Bon. Alors,
ça recommence à être la Pente du Carmel. On était une émission sérieuse.
On va le reprendre dessus.
Voilà. Donc, il y a des livres de Pierre.
Ah oui, j'étais en train de.
On est en train de parler.
On parlait de ça. Oui.
Pour faire très court, aux éditions Mango, dans la collection En Clair, un livre sur la précarité qui s'appelle Non la précarité, qui a dû sortir en 2007, et un autre sur les retraites. Qui s'appelle Retraite en mouvement, mais bon, pas très original. Mais c'était 2005.
En
et donc avec un collectif de statisticiens, à la découverte cette année, au mois de mai, un livre qui s'appelle Le Grand Trucage, et comme sous-titre, comment l'idée c'est les gouvernements manipulent les statistiques.
Très intéressant ça. Il y a aussi donc Le Monde Diplomatique, donc le mensuel que vous connaissez tous, qui est toujours en kiosque, il n'y a pas de problème pour ça, on peut le trouver. Et Serge Halimi, quelques livres à venir peut-être, puisque dernièrement, je sais pas, vous êtes très occupé, j'ai l'impression.
Voilà, exactement.
quelque chose en route.
La réédition du Grand Bois en arrière. Mais...
Le Grand Bois en arrière.
Et puis il y a les nouveaux chiens de garde.
Oui, toujours. Hein, toujours. C'est tout petit, mais c'est bien.
Ouvrage d'anthologie.
Un indispensable. Allez.
Avec une couverture rouge, vous ne pouvez pas le louper.
Ouais.
Orange.
C'est celle-là.
C'est comme le bouquin.
Et ça, c'est peut-être la réédition. Parce que
j'ai les deux, c'est pour ça que j'ai confondu.
En 2005, ça a été réédité, je crois.
C'est comme le bouquin de Bourdieu sur la télé.
Voilà, exactement. Bien,
bien. Écoute, on va se dire à la semaine prochaine pour nous.
Bah, lundi prochain, lundi à la Pointe du Carmel, prochain, 22h30, une émission de bon goût toujours.
Oui. Voilà. Voilà. Personnellement, de mon côté, mis à part toutes ces choses intéressantes dont nous venons de parler, je vous rappelle que nous avons rendez-vous Porte de la Villette à 18h le jeudi 18 juin pour, pour célébrer l'appel du 18e juin. Voilà. Avec le cirque qui était là précisément dans notre émission hier soir. Et voilà. Bon. Il y a une petite manifestation.
Une manif dimanche.
Qui est le dimanche 21 juin.
C'est ça, rendez-vous départ à 15h, métro des Halles, à la Fontaine des Innocents, organisée par la Fédération anarchiste.
Voilà, alors on peut peut-être dire.
C'est contre la terreur sécuritaire.
Voilà.
Et puis, pendant que j'y suis.
Une manif qui sera bien encadrée. Hein.
Et là,
on va encore se retrouver au poste.
Là, je vais en profiter pour faire aussi une petite pub pour un chanteur que j'aime beaucoup. Ça commence demain, 17 juin.
Dans les années 50, il passait Jean Ferrat à la solo de la CGT.
Jusqu'au 5 juillet 2009 à 20h, les dimanches à 17h30. Son nouveau spectacle, L'Espoir Têtu, c'est Serge Gérouillo au 20e théâtre. Voilà, je voulais le faire et je l'ai fait.
Je suis solidaire de Dupont.
Oui, voilà. On connaît tes goûts de chiottes, frère Louis.
Voilà, donc pas d'émission. La semaine prochaine, on est éjecté du Politburo.
Je me demande si je vais pas vous faire envoyer dans un petit camp de rééducation dans la campagne. Vous.
Allez, je balance le bousin. C'est le
Serge Gérouillo.
C'est le générique de fin.
Ah bon, pardon.
Voilà. Salut et à la semaine prochaine. Merci encore à nos invités. Vraiment, c'est vraiment très exceptionnel.
Venir des pointures comme ça, nous n'avons rien à faire. On écoute.
Absolument.
Nous, on
merci.
Est...
Au revoir.
Au revoir.
Salut.
Who's got a computer for a mind?
The brain.
Who's got an IQ like an Einstein?
The brain.
Diabolically cool, don't fool with the brain.
The brain.
They call him the brain.